Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes en ce dernier jour en direct de Roland-Garros. 14e finale gagnée par Raphaël Nadal. Nous l'avons suivi, vécu ici même. Bienvenue à tous. Nous sommes partis pour 2 heures d'infos et de débats. Il est 18h. À Roland-Garros, jour de finale, évidemment, nous évoquerons ce match expéditif 6-3, 6-3, 6-0. Nadal n'a fait qu'une bouchée de Casper Ruud. 14e finale à Roland-Garros, 22e tournoi du Grand Chelem, le tout avec son pied gauche qu'il fait quotidiennement et terriblement souffrir. Nadal superstar, premier titre de ce journal. L'actualité, ce sont aussi les orages qui ont fait un mort et de multiples dégâts. Nous faisons le point dans ce journal et nous inviterons Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, car les agriculteurs, après le gel et la sécheresse, se voient une nouvelle fois touchés de plein fouet par Mère Nature. Dans ce journal également, les hôpitaux en crise et des soignants exténués. Certaines unités se voient tout simplement obligées de fermer plusieurs jours pour pallier le manque de personnel. Nous verrons cela. Et le jubilé de la reine, suite et fin, hier, grand concert à Buckingham que nous fera vivre notre correspondant. 18h15, notre invitée, c'est Anne Avril, la directrice générale de l'UNICEF en France. La crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine est lourde de conséquences pour les pays d'Afrique. Elle nous explique tout. 18h30, ça fait débat entre Frédéric Dabi de l'IFOP et William T du think tank Le Millénaire. 19h15, panorama. Dans 3 jours, la journée mondiale des océans que nous suivrons en détail le 8 juin sur Europe 1. Le tournant écologique, la prise de conscience touche-t-elle aussi la mer? Le directeur général de la Fondation de la Mer et la navigatrice Alexia Barrier nous en parlent. 19h45, service Pioline, The Last One, vous avez le programme, c'est parti jusqu'à 20h.
Europe 1.
Et nous sommes à Roland-Garros.
Europe 1, en direct de Roland-Garros.
Vainqueur du simple messieurs Roland-Garros 2022, et il obtient son 22e titre en Grand Chelem, le 14e à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal.
Et comme le dit l'adage, à la fin c'est Nadal qui gagne, 2h30 de jeu, et s'est plié contre le Norvégien Casper Ruud. Cédric Chasseur.
Oui, ce n'est pas une finale qui restera dans l'histoire en termes de qualité de jeu ou de suspense, mais ce que l'on retient ce soir, c'est que grâce à cette victoire 6-3, 6-3, 6-0, eh bien Rafael Nadal construit encore un peu plus sa légende en écartant d'un revers de la main Casper Ruud. Le Mallorquin remporte son 14e titre ici à Roland-Garros, sans doute le moins attendu de la part de l'Espagnol, incertain avant ce tournoi à cause d'une douleur au pied, mais aussi le plus fort émotionnellement. J'ai du mal à décrire ce que je ressens, je n'aurais jamais cru être ici encore à 36 ans, c'est immense pour moi, a dit l'Espagnol sur le court au moment de recevoir la Coupe des Mousquetaires, et aussi avant de remercier le public qui n'a cessé de le soutenir tout au long de cette quinzaine. Écoutez-le.
Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, mais je vais continuer à me battre, je vais essayer de continuer. Merci à tous.
Voilà, des messages de remerciement et un peu de baume au cœur aussi pour le public, puisque vous l'avez entendu, eh bien, il ne ferme pas la porte à un retour ici sur le court Philippe Châtrier l'année prochaine officiellement. Donc pas encore de retraite cette saison pour le roi de la terre battue parisienne.
Ça s'appelle du teasing. Merci Cédric Chasseur. On retrouve bien sûr le tennis tout à l'heure avec service Pioline à 19h45.
Roland-Garros 2022.
L'événement tennis est sur Europe 1.
18h03 sur Europe 1, venons-en à ces orages. Ils ont balayé la presque totalité du territoire métropolitain hier avec une femme d'une trentaine d'années retrouvée morte sous une voiture du côté de Rouen, une quinzaine de blessés et des dégâts considérables, Caroline Baudry.
Oui, des dégâts agricoles notamment dans les Landes par exemple. Certains toits de bâtiments agricoles ont été transpercés par les grêlons. Laurent, élu agriculteur dans l'Eure depuis 25 ans, il fait pousser du lin. L'une de ses 5 parcelles a été détruite par une grêle très localisée.
Moi, j'ai jamais vu ça. Tant de violence à travers un orage comme celui-là, on est en train de mesurer les conséquences. Hein, voilà. Et puis, c'est tout le travail d'une année. Et je me dis que d'année en année, on voit des choses qu'on n'était pas habitué à voir.
Rien que dans le Bordelais, 4000 hectares de vignes ont été touchés, soit plusieurs dizaines d'exploitations. Bernard Fage est vigneron et président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
Certaines des propriétés ont tout perdu. C'est très rude moralement, demandant la mobilisation d'outils de soutien classiques qui existent. Mais plus largement, on a besoin d'une réforme forte du système assurantiel. Le changement climatique est une réalité pour les vignerons. Il y a urgence de pouvoir sauver les entreprises par un système assurantiel efficace.
Gérald Darmanin a annoncé aujourd'hui qu'il proposerait en fin de semaine de décréter l'état de catastrophe naturelle afin de permettre aux personnes de déclencher leurs assurances.
Merci Caroline Baudry et prévision météo de Valérie Darmon en fin de journal, sachant que les résidus d'orage se sont évacués cet après-midi par l'est du pays. En tout cas, et vous le disiez Caroline, le ministre de l'Intérieur a dégainé, Gérald Darmanin veut rassurer notamment les agriculteurs. Écoutez-le.
Je voudrais remercier tous les services de l'État et des collectivités locales qui sont intervenus depuis 24 heures. Je rappelle 2500 sapeurs-pompiers pour 3500 interventions. Et puis il y a évidemment beaucoup de coulées de boue, il y a beaucoup effectivement d'inondations. Je proposerai à la Première ministre de réunir l'état de catastrophe naturelle de nos ministères pour le décréter et ainsi permettre aux personnes de déclencher leurs assurances. Je sais que le ministre de l'Agriculture va aussi s'occuper des questions agricoles pour ceux qui ont été particulièrement touchés. On pense notamment aux vignerons. Et puis, nous allons être dès aujourd'hui, si j'ose dire, auprès des préfectures et des collectivités locales pour voir comment on peut les aider sur les ouvrages d'art. Encore une fois, je pense à ces ponts ou à ces routes qui sont très endommagées et parfois impraticables.
Gérald Darmanin, ce matin, place Beauvau sur ces orages violents qui ont touché la France. Bonsoir, Christiane Lambert.
Bonsoir.
Présidente de la FNSEA, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Est-ce que Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et ses équipes sont déjà en contact avec vous ?
Oui, bien sûr, nous avons échangé à plusieurs reprises. Le ministre fera un déplacement dès demain. Nous sommes en train de faire les recensements côté DRAF, Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. C'est le recensement des dégâts et de mon côté aussi avec mon réseau. On a des dégâts partout, dans les Landes, dans le Gers, dans la Saône-et-Loire, la Loire, l'Yonne, le Loiret, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, plus de 1500 impacts, c'est du jamais vu, et des grêlons d'une taille inimaginable. Donc certains ont tout perdu, je confirme, que ce soit en céréales, sur des pois, des tournesols, du blé, de l'orge. Quand les céréales sont prêtes à être moissonnées et que les épis reçoivent des impacts de cette violence, eh bien ça déshabille complètement l'épi, il n'y a plus de grains du tout sur l'épi. Donc la récolte est faite, elle est par terre.
Oui, ça c'est intéressant ce que vous dites, Christiane Lambert, parce qu'on pense avec les grêlons d'abord bien sûr aux fruits les plus fragiles, aux viticulteurs, mais c'est le cas aussi des céréales, et j'allais dire sans faire de mauvais humour, les céréales c'est pas le moment là.
Les céréales c'est pas le moment parce que j'étais avec des agriculteurs hier qui ont préparé leurs moissonneuses batteuses et leurs bennes pour aller moissonner les orges la semaine prochaine. Eh bien dans les régions où la grêle est passée, il n'y aura pas la peine de sortir la moissonneuse batteuse. Les épis n'ont plus du tout de grains. Il y a des photos sur les réseaux sociaux qui sont impressionnantes et je remercie les agriculteurs qui courageusement les postent pour témoigner de ce qu'ils vivent. Il faut beaucoup de compassion parce que pour certains, c'est la troisième année. Il y a eu le gel, la sécheresse et maintenant ces orages de grêle. On est l'année des superlatifs, l'année la plus sèche, la plus caniculaire en mai, la plus ensoleillée et aujourd'hui la plus grêlissaire. Donc, très difficile pour les agriculteurs, nous ne pouvons pas protéger ces grands espaces. Quand vous avez 5000 hectares de vignes qui sont touchés, on ne peut pas mettre des bâches, et même les bâches ne tiendraient pas, on ne peut pas mettre de filets, rien du tout. Quand les grêlons transpercent les tôles des toits, rien ne peut les arrêter.
Quand l'agriculteur qu'on a entendu juste avant votre intervention disait « on a besoin d'un système assurantiel efficace », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas efficace à ce stade ?
Ça veut dire que nous sommes dans une année de transition, suite au gel de l'année dernière. Le ministre de Normandie a engagé un gros travail et enfin une loi a été votée le 3 mars de cette année par les députés et les sénateurs. Nous sommes en train de préparer tous les textes, la gouvernance, les assurances proposées à tous les agriculteurs. Malheureusement, ça n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2023. Donc c'est une année de transition. On va fonctionner avec l'ancien régime des calamités et des catastrophes naturelles qui seront nécessaires ici ou là. Mais il y a des éléments techniques, comme par exemple le calcul de la moyenne de rendement sur les trois dernières années. Mais pour ceux qui ont eu une année de gel, une année de grêle et une année de sécheresse, ça dégrade énormément la moyenne et donc l'indemnisation n'est pas au rendez-vous.
Justement, les risques naturels, la sécheresse, le gel et les orages vont se multiplier dans l'avenir. Tous les climatologues le disent. La France est l'un des pays les plus vertueux en matière d'écologie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme travail de prévention ? Vous avez entendu, vous avez dit on ne peut pas mettre des bâches. Et je vous suis totalement, on a l'image de la bâche là, c'est totalement impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans la prévention ? Puisque le système assurantiel, j'allais dire, c'est la sécurité passive, c'est ce qui arrive après.
Alors, la sécurité passive et surtout la sécurité financière qui évite de faire faillite une année grave. Non, on peut se protéger par rapport au gel. On l'a vu cette année avec l'aspersion. On fait des cocons de glace autour des bourgeons pour qu'ils restent à 0 ou moins 1 degré et pas qu'ils descendent à moins 6. Ça, on sait faire quand on a une réserve d'eau. On peut se protéger de la sécheresse quand on a des réserves d'eau et qu'on peut irriguer. Et déjà aujourd'hui, les agriculteurs ont anticipé avec des cultures différentes moins nécessiteuses d'eau. Mais contre la grêle, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de protection. C'est trop violent. Rien ne peut arrêter la grêle. Donc là, il faut effectivement la solidarité nationale. La présidente de la Commission européenne appelle à produire plus parce que on a un gros problème de famine et j'entends que vous allez interroger la personne de l'UNICEF. Oui. La France ne sera pas au rendez-vous autant qu'elle l'est d'habitude avec sa fourniture de blé, d'orge, de maïs et de tournesol, malheureusement.
C'est pour ça que je disais que ça n'était pas le moment sans faire de mauvaise humour. Merci voilà. Beaucoup Christiane Lambert.
Ça montre toute la fragilité de la production d'alimentation et l'importance de l'agriculture.
Et pas seulement au niveau de la France, mais au niveau mondial, vous avez raison de le préciser. Merci beaucoup, Madame Lambert,
merci
présidente
vous,
de la FNSEA, d'avoir été en direct sur Europe 1. En bref, encore, trois policiers sont en garde à vue. Ils ont tiré sur une voiture soupçonnée d'avoir voulu échapper à un contrôle hier à Paris. L'une des deux passagers est entre la vie et la mort. 18h10, vous restez avec nous. Dans un instant, l'hôpital en crise et la fête hier à Buckingham. A tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal à 18h12, mardi, les soignants seront dans la rue. 9 organisations syndicales appellent à manifester partout en France pour réclamer des hausses de salaire et d'effectifs à quelques jours des législatives. C'est vrai qu'on vous en parle beaucoup sur Europe 1, mais voilà, la situation est critique dans de nombreux hôpitaux, selon des chiffres de SAMU Urgences de France. Écoutez bien, au moins 120 services d'urgence ont été tout simplement obligés de limiter leur activité, ou alors ils s'y préparent. À Nancy, par exemple, les urgences de la clinique privée de Gentilly ont tout simplement été obligées de fermer 2 jours de suite cette semaine, faute de médecins. Reportage de Mélina Fachin.
De mardi midi à jeudi 10h, les patients qui se rendaient au service des urgences de cette clinique trouvaient porte close. Une décision que Julien Belmain-Noël, le directeur des opérations, a dû prendre à contre-cœur.
C'est la première fois que ça arrive. Nous faisons face à des difficultés de recrutement de praticiens. Et l'été approchant, c'est encore plus compliqué. On travaille activement pour justement faire en sorte de ne pas avoir à reproduire cette fermeture.
Alors forcément, le seul autre service des urgences de Nancy, celui de l'hôpital public, redoutait un afflux massif de patients. Le professeur Tahar Chouyad et ses collègues ont dû s'organiser en quelques heures.
Pour les 2 journées, on a rajouté 2 médecins et 2 infirmières de plus. Mais ça reste difficile. Actuellement, on a une augmentation de 7 à 9% des passages aux urgences.
Il en appelait donc aussi au bon sens des patients. Évitez de vous rendre pour tout et n'importe quoi aux urgences. Passez d'abord par votre médecin traitant ou par le SAMU. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
La campagne des législatives et Marine Le Pen à Hénin-Beaumont qui appelle à vaincre la malédiction d'un système, je cite, vermoulu, taxant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron des deux mamelles de la déconstruction de la nation. Outre-Manche, suite et fin du jubilé de platine de la reine Elisabeth ce dimanche, cet après-midi, parade, carrosse dorée et pique-nique en tout genre. Une nouvelle fois sans apparition de la souveraine âgée de 96 ans. Hier, place au rock et à la pop à Buckingham Palace, Queen, Duran Duran, Rod Stewart, Diana Ross, il y avait une belle brochette d'artistes pour célébrer les 70 ans de règne de Sa Majesté. Spectacle son et lumière sur la façade du Palais Royal. Anaïs Cordoba, notre correspondante à Londres, a partagé ce moment avec la foule. Reportage.
Le concert a à peine commencé, la foule est déjà en délire. Sur scène, Queen, le groupe de rock mythique, ouvre le spectacle. Puis, les têtes d'affiche se succèdent, acclamées par une foule en liesse. Alicia Keys, Andrea Bocelli, Elton John. Mais c'est l'interprétation de God Save the Queen qui a peut-être le plus ému les spectateurs, comme Georgina.
La reine ne va plus être avec nous encore très longtemps. Et donc on ne va plus chanter God Save the Queen. Quand elle va mourir, malheureusement, on aura God Save the King pour 4 générations. Donc c'est émouvant de le chanter.
Puis il y a eu ce discours d'hommage poignant du prince Charles. Votre Majesté, maman, merci d'avoir été là pour nous pendant 70 ans. Des mots qui ont touché de nombreux Anglais comme Louise.
Son discours était plein d'émotions, très sincère, c'était beau. C'est vraiment dommage que la reine n'a pas pu y assister.
Un concert féerique qui s'est achevé dans le ciel, au-dessus du palais, par un spectacle aérien de drones illuminés à couper le souffle. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Un mot de sport encore avec la MotoGP, c'était aujourd'hui en Catalogne et bravo au français Fabio Quartararo qui remporte son 2e Grand Prix sur Yamaha et ce qui conforte d'ailleurs sa place de leader au championnat. Martin et Zarco sont aussi sur le podium. Et alors pour Zarco, c'est quand même la blague parce que c'est grâce au fait qu'Alex Espargaro, l'Espagnol, pensait que la course était terminée Alors qu'en fait, il restait un tour. Voilà. Ça n'arrive que rarement dans les courses, mais ça s'est passé comme ça aujourd'hui. Allez, on termine par le ciel, Valérie Darmon, et on voit avec vous le ciel de nos régions.
Eh bien, le ciel redevient variable du Grand Est à l'Auvergne et en Rhône-Alpes, ainsi qu'en Bourgogne et en Franche-Comté, avec à vos thermomètres 23 à 27 degrés en moyenne dans l'après-midi. Des côtes de la Manche au bassin parisien et des Pays de la Loire au Limousin, le ciel est plus hésitant entre nuages et éclaircies sous quelques pluies passagères et le ressenti est plus frais. Sur le bassin aquitain jusqu'au midi toulousain, après la grisaille du matin, les températures afficheront 23 à 26 sous un ciel lumineux, pas aussi ensoleillé que près de la Méditerranée, où on attend 34, localement 35, notamment dans la région nîmoise et l'arrière-pays provençal.
Merci Valérie Darmon. Restez avec nous dans un instant. Le blé ukrainien et russe va manquer à la planète. Mais alors, que deviennent les populations africaines et les populations des pays pauvres qui déjà manquent de tout sur la planète? La patronne de l'UNICEF en France est avec nous. À tout de suite.
Pierre de Villeneuve.
18h19, c'est l'heure de l'interview sur Europe 1 et c'est une vieille dame. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui lutte depuis 1946. Elle rassemble de l'argent où elle peut, avec la force nécessaire pour sauver tous les enfants de cette planète. Les guerres, la famine, la sécheresse continuent. Alors des ordinateurs, des smartphones, du tourisme spatial. L'heure est encore plus grave aujourd'hui avec les conséquences inévitables de la guerre en Ukraine. Bonjour Anne Avril.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de l'UNICEF en France. La crise alimentaire est parvenue jusqu'au rayon des supermarchés ici en France. L'huile de tournesol, bien sûr. Les pâtes, d'autres produits encore. L'Ukraine et la Russie sont les greniers du monde en céréales, notamment en blé. Les pays les plus pauvres dans le monde sont des consommateurs de pain. Quelle est la situation pour vous directement?
Eh bien, écoutez, la situation, elle est extrêmement préoccupante, comme on l'a souvent répété. Elle l'est encore plus à cause de la guerre en Ukraine. Mais la guerre n'a fait qu'aggraver un facteur qu'on avait déjà soulevé, enfin, en tout cas, un fait qu'on avait déjà soulevé l'année dernière. C'est que la malnutrition, qui n'est pas une fatalité. Hein. Moi, je voudrais d'abord dire à vos auditeurs que ça se soigne, ça se combat, qu'il y a des solutions et que donc, nous avons tous les moyens de lutter contre ce phénomène, mais évidemment, cette guerre en Ukraine a des conséquences désastreuses pour les pays les plus vulnérables.
Alors, petit problème de liaison avec vous, Anne Avril. On essaye de vous rejoindre au téléphone. Voilà, je parlais des techniques modernes. On va peut-être marquer une pause et on vous rejoint avec une liaison plus fiable. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Et nous voilà de retour en direct de Roland-Garros. Petit problème de liaison. Anne Avril, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends très bien.
Eh bien, moi aussi, loud and clear, comme on dit. Directrice générale de l'UNICEF, nous étions restés au point où vous nous disiez que fatalement, cette guerre en Ukraine, avec ce grenier, comme on l'appelle, de céréales que constitue l'Ukraine, mais aussi la Russie, évidemment, ça a aggravé la situation dans votre combat à vous, l'UNICEF.
Alors, effectivement, fatalement, ça a des conséquences, mais encore une fois, nous, à l'UNICEF, on est là pour combattre la fatalité et donc trouver des solutions. Et il y en a. Et donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que ce sont effectivement des millions d'enfants qui sont en danger de mort immédiate. Mais on a des solutions. L'impact immédiat qu'on a calculé de la flambée des matières qui servent à lutter contre la malnutrition, il est de 16%. Donc ça veut dire que lutter contre la malnutrition, ça va coûter 16% de plus. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Si on calcule comme ça, on pourrait renoncer à faire des tas de choses. Mais nous, on a décidé d'aller beaucoup plus loin et justement de combattre cette fatalité parce qu'encore une fois, la malnutrition, vos auditeurs comme moi, on a été versés par ces images terribles d'enfants émaciés, mais
absolument.
On a fait énormément de progrès dans la prise en charge de la malnutrition et donc il ne faut pas s'arrêter maintenant en disant qu'il y a une guerre et qu'elle va nous empêcher de combattre ce combat qu'on a entrepris depuis des dizaines d'années et qui fonctionne. Et encore une fois, il faut que chacun se responsabilise pour qu'on puisse venir en aide à ces millions d'enfants qui ont besoin d'une aide immédiate.
Lorsque Macky Sall, en avril, le président sénégalais qui représente 54 pays de l'Union africaine, vient s'entretenir avec Vladimir Poutine, c'était ce vendredi, et qu'il en ressort finalement rassuré, est-ce que c'est un signe justement qui va dans l'optimisme que vous décrivez?
Ben, je crois que chacun, je le disais à l'instant, a une chaîne de c'est une chaîne de responsabilité collective. Donc les gouvernements, au premier plan, doivent prendre leurs responsabilités et ne pas considérer la malnutrition comme un phénomène, un peu une conséquence de la pauvreté, mais comme
c'est
quelque
le cas.
Chose qu'il faut
c'est le cas chez
combattre.
Certains dirigeants.
En tout cas, la prise en charge de la malnutrition est certainement pas suffisamment prise en compte par beaucoup de dirigeants et en tout cas par l'aide humanitaire internationale.
Et comment est-ce que vous pouvez agir, du coup, vous, l'UNICEF? Vous parlez à ces dirigeants?
Nous, à l'UNICEF, on fait en sorte effectivement de réunir les fonds nécessaires auprès des gouvernements, mais on dépend aussi beaucoup de l'aide privée. Et donc, ce sont des entreprises, ce sont des donateurs qui se mobilisent chaque jour pour nous aider et justement pour faire en sorte que quand les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, on arrive quand même à combattre ces crises alimentaires. Moi, j'ai deux exemples. J'ai la Corne de l'Afrique en 2011, c'était il y a exactement 11 ans. En France, on a réussi à mobiliser plus de 11 millions d'euros en un mois. Ça nous a permis de venir en aide à des millions d'enfants et ça a été permis grâce à des donateurs, grâce à des entreprises, grâce à des collectivités. Et je crois que cette prise en compte collective de chacun d'entre nous est indispensable justement pour que les États se remobilisent et que ces répercussions, pour revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, puissent ne pas être aussi lourdes que vous l'annoncez. Et bien sûr qu'il y a une pénurie. Bien sûr qu'il y a une sécheresse, mais on peut, encore une fois, on a les moyens et donc chacun doit prendre ses responsabilités pour que ces vies soient préservées. C'est super important.
C'est très intéressant ce que vous avez dit, Anne Avril, lorsque vous avez rappelé ces images d'enfants extrêmement touchés par la famine que vous et moi et sans doute beaucoup de nos auditeurs ont vécu, on a suivi ça dans les années 80, 90, 2000. Est-ce que vous dites que ça a changé en bien? Dans quel sens? Et comment est-ce qu'on y arrive concrètement?
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, plus de 9 enfants sur 10 sont sauvés de la malnutrition grâce à des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Quand j'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années, c'était 30% d'enfants qu'on perdait parce qu'on n'avait pas des moyens pratiques, techniques de les prendre en charge. Aujourd'hui, les progrès...
Qu'on perdait, c'est-à-dire il y a 30% des enfants qui mouraient, tout simplement.
Qui mouraient fatalement parce qu'on ne savait pas. Mais pour des raisons, enfin, je pourrais vous les expliquer, mais on a assez peu de temps. Mais aujourd'hui, on a un moyen de sauver les enfants et ça coûte une cinquantaine d'euros. Donc, un traitement contre un enfant qui s'il n'a pas une pathologie grave, un traitement, ça coûte une cinquantaine d'euros, ça dure 6 semaines et vous remettez un enfant sur pied. Donc, encore une fois, moi, je veux être optimiste et je veux donner à vos auditeurs de l'optimisme parce qu'on a les moyens à l'UNICEF de sauver les enfants et donc il faut qu'on prenne tous nos responsabilités et qu'on empêche justement cette crise extrêmement préoccupante et encore une fois, la crise en Ukraine ne fait qu'aggraver les choses, mais qu'on arrive à sauver ces enfants parce qu'on en a les moyens. Et vous en avez les moyens, comme moi et comme vos auditeurs ce soir.
Donc l'alimentation n'est pas celle qu'on croit, parce que quand on parle de l'Ukraine, c'est surtout le grenier à céréales, comme je le disais. On fait assez vite le calcul et les observateurs disent, vous voyez, ce sont les pays d'Afrique, ce sont beaucoup des mangeurs de pain et donc fatalement de blé, en tout cas automatiquement de blé. Là, ce que vous nous dites, c'est que l'aliment aujourd'hui pour lutter contre la famine, il est beaucoup plus perfectionné, j'allais dire, beaucoup plus sophistiqué.
Alors oui, c'est ce qu'on appelle des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, c'est-à-dire qu'on donne à des enfants un traitement qui est extrêmement puissant et qui lui permet de se remettre sur pied et qui est en ambulatoire, c'est-à-dire que ce qui permet à l'enfant finalement de survivre, c'est d'être soigné chez lui, dans sa famille, avec un traitement assez simple. Ce sont des sachets de pâtes alimentaires avec des micronutriments, avec du lait, de l'arachide, enfin des choses qui sont très très consistantes et qui lui permettent de se réalimenter tout seul. Il suce ça comme une barre de céréales et au bout de quelques jours, il commence à reprendre vie et au bout de quelques semaines, il est à nouveau sur pied, il peut jouer.
Mais ça, c'est pas pérenne, cet aliment-là.
Non, alors ça, c'est vraiment pris en charge. C'est vraiment pour la prise en charge de la malnutrition sévère aiguë, donc pour la forme la plus grave. Ça peut être aussi pris à titre préventif, Donc, c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette flambée des prix, elle va impacter toutes les matières premières. Et le blé n'est pas la première matière première pour les aliments, enfin, pour ces pâtes alimentaires. Mmh. Mais néanmoins, ça aura des conséquences aussi parce que, globalement, une famille, quand elle est plongée dans la pauvreté, c'est l'ensemble de la famille qui est affectée par le... Ce ne sont pas que les enfants de moins de 5 ans. Ce sont les mamans, par exemple, qui allaitent leurs enfants. Donc, la chaîne alimentaire, elle est très complexe. Donc, c'est l'enfant de moins de 5 ans, surtout de moins de 2 ans, qui est le plus vulnérable et le plus exposé. Mais évidemment, ses frères et sœurs, ses parents... Toute la famille doit être en bonne santé pour pouvoir avoir les moyens de travailler, d'aller à l'école et de subvenir à ses besoins et ne pas rentrer dans cette espèce de spirale terrible qui est celle de la pauvreté, qui est toutes les conséquences que l'on connaît et qui entraîne la malnutrition.
Merci beaucoup Anne Avril, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, directrice générale de l'UNICEF. On y voit beaucoup plus clair grâce à vous et notamment avec ces nouveaux types d'aliments. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, ça fait débat, on repart à l'assaut de la politique, de la campagne des législatives avec William Tay et Frédéric Dabi. Restez avec nous, c'est Europe 1, nous sommes toujours en direct de Roland-Garros.
Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h ici en direct de Roland-Garros où le soleil commence à revenir dans l'allée centrale où il y a plein de monde qui passe, des acteurs, des comédiens, des sportifs, des chefs d'entreprise. Voilà, on pourrait demander au rédacteur en chef de Papier Glacé, qui d'ailleurs doivent être ici aussi pour faire des photos, pour leur prochaine couverture. Deux stars sont là également, Frédéric Dabi de l'IFOP, bonsoir.
Bonsoir, non,
bonsoir à William Tay.
Bonsoir.
Du think tank Le Millénaire. Bon, d'abord ce match quand même, Frédéric. Hein,
match. Bah, c'est moins le match a été absolument à sens unique. Ça a rappelé la finale de 2008 où Nadal avait laissé que 4 jeux à Roger Federer. Ce qui est important, Pierre, c'est plutôt l'histoire. Un exploit hors du commun. Je vois pas d'autres disciplines sportives où gagner 14 titres comme ça serait équivalent. 14 Roland-Garros, c'est ce qu'avait gagné Pete Sampras avec tous ses grands chelems. Et puis surtout, Nadal, dans ce match contre l'histoire, prend date face à Federer et Djokovic, puisqu'il a maintenant 2 titres du grand chelem de plus. Moi, j'ai eu une peur, très sincèrement. J'avais peur qu'il fasse une Sampras, c'est-à-dire qu'il annonce que c'était son dernier match, qu'il n'en pouvait plus, que son pied lui faisait trop mal. Ben, il a dit « je me préparerai pour l'année prochaine ». Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça. Jamais. Mais en tout cas, c'est, voilà, là, il écrit les pages de l'histoire du tennis.
En plus, c'était, j'allais dire, sa victoire est la plus inattendue, puisqu'on le disait d'abord incertain. En plus, il est arrivé, voilà. Il y a eu l'accident de Zverev. Bon,
il a perdu beaucoup de matchs avant
c'était
Roland-Garros.
C'était très tendu quand même il y a 2 jours hein, contre Alexander Zverev. C'est... Honnêtement, on était au touche-touche. Hein. C'était 15-0, 15-A, 30-15, 30-A, etc., etc.
Ça a duré 3 heures. Ils n'ont même pas fait 2-7. Ça a été ce coup du destin de cette terrible blessure pour l'Allemand.
William, vous êtes très tennis ou...
Moi, je ne suis pas trop. Je ne suis pas trop le tennis. Mais ce qui est impressionnant avec Nadal, c'est que même en suivant pas, on sait que ce qu'il a fait est exceptionnel. Et en fait, il est en train
on sait qu'il va gagner.
Voilà, on sait à peu près qui va gagner. C'est à peu près ça, incroyable. Il est en train de banaliser l'exceptionnel. Chapeau à lui. Je ne sais pas si dans le sport, quelqu'un a autant dominé depuis Michael Jordan en NBA.
Ouais. Je ne sais pas si banaliser l'exceptionnel, c'est forcément très positif, ce que vous dites.
Non, ce n'est pas forcément, mais... C'est-à-dire
que vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre un tacle. Hein.
Non, mais
vous êtes terrible comme garçon, non, William.
C'est-à-dire à quel point il est fort. Parce que je n'ai pas le souvenir, hormis peut-être Tiger Woods et Michael Jordan, une telle domination.
Et ça a duré sur 5 ans, 7 ans.
Voilà.
Lui, sa première victoire,
c'était 14 ans.
C'était en 2005.
Oui,
c'était à 17 ans.
Ça, 17 ans même.
Si on doit retenir Tiger Woods, il y a eu quelques incidents d'obstacles, on va dire.
Oui.
Voilà, bon,
alors, Nadal est absolument immaculé du point de vue... du comportement et tout le monde l'admire, y compris les fans de Federer ou les fans de Djokovic.
Revenons-en un petit peu à la campagne qui est là. Mais c'est ce qu'on disait dans les débats il y a encore 2 jours, 3 jours, 1 semaine, c'est que je parle sous votre contrôle, mais je crois à peu près 1 Français sur 2 qui s'intéresse à cette campagne.
Moins que ça. On est à 41% dans le baromètre match.
41%.
Et le 1 sur 2, Pierre, c'est la part des Français qui envisagent de ne pas voter. Ce serait absolument terrible. Ça serait la deuxième fois après les législatives de 2017 que l'abstention serait majoritaire. On parle d'un scrutin national, ça en dit long sur cette étrange campagne où il ne se passe rien, une campagne chloroformée, sans message national pour électriser la mobilisation. Il reste encore 5 jours, mais c'est une campagne encore moins intense que ne l'était celle de 2017. Mais de ce point de vue-là, on peut avoir des surprises compte tenu de cette non-campagne.
On a présenté Emmanuel Macron comme le dynamiteur de la droite, de la gauche, puis ensuite de la droite. Est-ce que c'est ça la principale raison de ce désintérêt ?
Ah, cette campagne fait suite à une présidentielle où il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette invasion du calendrier électoral, que les législatives ont perdu leur autonomie, elles sont très indexées sur l'élection présidentielle. La campagne avait commencé tôt, lorsque Jean-Luc Mélenchon a eu cette idée de génie qui ne voulait rien dire institutionnellement, élisez-moi Premier ministre, mais depuis, en temporisant sur la formation du gouvernement, Emmanuel Macron, volontairement ou pas, a un peu chloroformé cette campagne. Il reste, je répète, quelques jours, mais le risque sur lequel l'abstention serait majoritaire est absolument très fort aujourd'hui.
Bon, en tout cas, il a été un bon publicitaire. C'était un bon slogan, élisez-moi Premier ministre. Ça a marqué les esprits. Et en tout cas, ça a occupé le territoire médiatique pendant quelques temps. William T., d'accord avec ça ?
Oui, je suis plutôt d'accord. Enfin, il y a plusieurs points sur le désintérêt des Français. En fait, les intérêts des Français, ils ne viennent pas uniquement sur l'élection législative. C'est que l'élection présidentielle n'a finalement que très peu intéressé. Je me rappelle d'un sondage notamment qui posait la question. Les 77% des Français trouvaient que les bons thèmes n'étaient pas abordés, qu'il n'y avait pas de vision du pays qui était déclinée. Et en tout cas, sur tous ces points, je ne suis pas sûr que l'élection législative ait répondu à ces différentes questions. Et en fait, la dynamique Mélenchon est un peu inversée par rapport à l'élection présidentielle. Sur que l'élection présidentielle, il est monté petit à petit progressivement. Et puis, dans les derniers mètres, il a fait un très grand bond dans les derniers jours, notamment en termes d'intention de vote. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il démarre très fort et il commence petit à petit à s'étioler dans les sondages, en tout cas à perdre un peu sa dynamique. Et je pense qu'il y a un troisième point qui est important aussi sur les élections législatives, c'est qu'en fait, il n'y a que deux courants de pensée qui s'expriment. Il n'y a que aujourd'hui la majorité présidentielle qui a une chance raisonnable de gagner. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon du côté gauche qui arrive à exprimer une utilité au vote. Par contre, la droite est complètement absente, ce qui justifie en plus qu'une partie des Français ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans l'offre politique actuelle, dans la mesure où Marine Le Pen avait annoncé très tôt en fait qu'elle n'avait aucune chance de gagner, que Zemmour n'avait très peu de chances de gagner et que LR n'a pas mené campagne. Donc vous avez 35-40% des Français qui aujourd'hui n'ont aucune chance de gagner.
Alors vous avez dans la série Punchline Marine Le Pen qui aujourd'hui à Hénin-Beaumont appelle à vaincre, je cite, la malédiction d'un système vermoulu. Elle taxe Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron des deux mamelles de la déconstruction de la nation.
Elle est dans son rôle. Vous savez, au sort, cette élection...
C'est violent quand même.
Oui,
hein,
c'est violent, mais là, tout d'un coup. Cette phrase est très fortement liée au contexte politique que William T. a rappelé, que nous avons une France tripolarisée politiquement. Au soir du premier tour, on a eu un très gros bloc Macron, un bloc Marine Le Pen et un bloc Jean-Luc Mélenchon. Là, aujourd'hui, compte tenu de l'abstention qui va être extrêmement forte, il n'y aura quasiment aucune triangulaire, il y en avait une en 2017, donc il y aura trois forces pour à chaque fois des duels, donc pour deux places. Dans ce cadre-là, Marine Le Pen est dans son rôle de délégitimer le camp Macron, le camp de la gauche unique, qui est peut-être le seul récit que les Français ont vu, contrairement au récit de droite où les candidats de droite sont là, ils font campagne, mais localement, on ne les entend pas, il n'y a pas de parole, je dirais, qui mettrait ça en musique nationalement. C'est vrai que Marine Le Pen, alors là où j'ai un léger point de divergence avec vous, elle fait quand même campagne et compte tenu du fait qu'il y a un phénomène qui ne s'était pas produit aux législatives précédentes, c'est-à-dire que les intentions de vote en faveur du RN ne s'effondrent pas après la présidentielle, elle a une chance sérieuse d'obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu, ce que le FN a obtenu qu'une fois en 86, parce que c'était la proportionnelle, un groupe parlementaire, c'est une possibilité ténue, mais une possibilité. Mais c'est vrai que quand elle parle de système vermoulu, elle pointe aussi ce système électoral majoritaire à deux tours qui va de moins en moins aux Français.
Oui, William T. et Frédéric Dabi qui essayent de parler sous couvert des hurlements des supporters de Raphaël
Nadal. Il faut les comprendre.
Non, mais ils ont tous la banane et puis surtout ils ont des décorations jaunes et rouges, évidemment, tout ça. Ce sont des Espagnols, on les reconnaît. William, t'es d'accord avec cette analyse de
Frédéric ? Oui, plutôt d'accord. En fait, Marine Le Pen, ce qu'elle doit chercher à faire, c'est vaincre en fait le plafond de verre du Front Républicain et du fameux plafond de verre que est victime le Rassemblement National à chaque fois. C'est-à-dire que ce qui va se passer aux élections législatives, c'est qu'on a 577 mini-élections présidentielles. Et ce qui arrive à chaque fois au Front National, Rassemblement National d'aujourd'hui, c'est qu'au second tour, quand ils font face à un candidat d'un parti de gouvernement, ils subissent un barrage républicain et ce qui les empêche de gagner. Quand on prend des circonscriptions de 2017, des endroits où même Marine Le Pen a fait 60% dans des circonscriptions, le candidat du Rassemblement National perdait au second tour à l'occasion des élections législatives. Là, ce qu'elle doit faire, son intérêt est double. trouble avec cette déclaration. Ça permet d'attaquer et de mettre au même niveau Mélenchon et Macron, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est récupérer les électeurs de droite des Républicains et des Reconquêtes pour leur dire, si vous voulez vous exprimer, le seul vote utile pour vous exprimer à l'occasion de ces élections législatives, c'est le vote du Rassemblement National, afin de lui permettre de constituer un groupe parlementaire et de s'opposer comme la principale opposante à Emmanuel Macron pendant le quinquennat.
Bon, en attendant, le chef de l'État a fait une sortie hier dans la presse régionale. Sortie, interview, pas fleuve, mais en tout cas catalogue. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses sur énormément de sujets, à la fois sur la construction, ce grand conseil de la refondation qu'il fait un parallèle avec le conseil de la résistance. Il y a des données économiques, il y a la promesse écologique qui figurait en long et en large dans son programme et qui s'est traduit d'ailleurs par ce binôme de deux ministres sur l'écologie. Et puis il y a tout, il y a l'affaire Abad, il y a même question de Mbappé. C'est-à-dire, est-ce que ma question, Frédéric Dabi, est-ce que c'est une bonne, d'abord, entrée en matière à 8 jours du premier tour des législatives, premièrement, et deuxièmement, est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et notamment cette chance de Marine Le Pen de pouvoir vaincre sur le territoire, alors qu'on sait bien que ce n'est pas du tout le même contexte que l'élection présidentielle nationale, est-ce que c'est la bonne réponse à cela ?
En tout cas, le président devait prendre la parole. Une élection législative, quand l'abstention est forte, et c'est le cas maintenant, elle progresse à chaque élection, c'est une affaire de mobilisation des électorats. Et c'est vrai que le silence du président de la République, qui incarne à lui tout seul la majorité présidentielle, devenait gênant, démobiliser son camp. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond, c'est vrai que c'est un véritable catalogue, il a du mal, notre président, à faire court, et c'est vrai qu'au moins, à minima, il a fait passer des messages qui est « voilà mon programme, donnez-moi les moyens d'appliquer ce programme », c'est ce que disait chaque président élu après une présidentielle qui demandait une majorité parlementaire, de François Mitterrand à 80 à Jacques Chirac en 2002, et c'est vrai qu'il a attaqué la NUPES et à un degré moindre le Rassemblement National. Donc il est entré dans l'arène politique, mais à bas bruit, et comme vous le dites Pierre, en abordant tellement de thèmes que le fil rouge du message, le fond du message est sans doute peu passé auprès des Français, mais l'essentiel pour lui, c'est mobiliser son camp. S'il mobilise son socle de 28,5-29% du premier tour dans les 577 circonscriptions, ça sera largement gagné pour Ensemble Renaissance, parce que pour l'instant, on a annoncé l'IFOP pour la première fois, un risque de majorité relative, comme l'avait connu la gauche, pourtant vainqueur en 88 avec Michel Rocard.
William T.
Il y a plusieurs points sur l'interview d'Emmanuel Macron. Le premier, c'est qu'il s'adresse principalement à son camp. Ça veut dire qu'en fait, il ne s'adresse ni à la droite ni à la gauche. Il s'adresse principalement aux électeurs LREM qui sont éventuellement démobilisés du fait qu'Emmanuel Macron a mis du temps à composer un gouvernement et qu'aujourd'hui, il n'agit pas concrètement. Moi, je trouve qu'il y a une ambivalence sur l'élection d'Emmanuel Macron. Il avait été élu, notamment, il a bénéficié d'un vote utile au premier tour sur la question de l'urgence et du fait qui disait « nous sommes en situation de crise sanitaire, en situation de crise diplomatique, situation de crise économique, donc il faut élire le président le plus compétent pour agir rapidement ». Mais dans le même temps, en parallèle, et son message est contradictoire, dans la mesure où il met 4 semaines à composer un gouvernement et de ne pas prendre aucune action importante. Le deuxième point que je vois, c'est qu'il met au même niveau Mélenchon et Le Pen. Alors qu'habituellement, on considère que Le Pen est un risque...
Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen incarnent le désordre et la soumission.
Et voilà, entre les deux tours, il n'a pas fait ça.
Ouais, mais là, il met les deux au même niveau. D'habitude, on considère que l'extrême droite est un danger plus important que l'extrême gauche. Mais cette fois-ci, il classe au même niveau Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a un troisième point que je vois intéressant sur son programme, c'est notamment sur le Conseil national de la refondation. Ça démontre quelque chose sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire que est-ce que Emmanuel Macron est encore le même homme qu'en 2017, celui qui veut disrupter et dynamiter la vie politique, quitte à y aller tout seul, comme sur le modèle d'un hyper-président et sur le modèle plutôt bonapartiste, en disant « je vais agir ». Là, il change de méthode, à la fois sur le fond et sur la forme. Et moi, c'est là où je vois un point qui est problématique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a principalement été élu pour agir. Est-ce qu'il peut agir concrètement avec un Conseil national de la refondation ? C'est intéressant en termes de réflexion, mais en fait, ça va mettre un an de débat de discussion, un an de débat au texte de loi et un an de débat en termes de décret d'application.
Mais c'est-à-dire qu'avec ce conseil, vous avez les parlementaires déjà qui commencent à crier très très fort en disant « et nous, on existe quand même, on est en démocratie représentative accessoirement ». Et puis il y a un CESE aussi, si on veut vraiment faire les choses.
Il y a un CESE même très actif, mais ce que vient de dire William Tay est très intéressant parce qu'il touche la force et la limite du macronisme pendant le premier quinquennat. Sa force, c'est l'action. contrairement à François Hollande, voire contrairement à Nicolas Sarkozy, la critique en termes d'inaction a été très peu souvent associée à Emmanuel Macron, petit peu sur la question environnementale après la démission de Nicolas Hulot. Mais en même temps, il y a eu des critiques très fortes sur la méthode employée, sur ce qui a conduit au gilet jaune, un président brutal qui impose des choses d'en haut. On se souvient de ce qui s'est passé avant cette crise des gilets jaunes. Là, il essaye un petit peu de ménager la chèvre et le chou, se dire j'ai toujours ce crédit d'action, de mouvement, de volontarisme par rapport à mes différents, par rapport à mes différents adversaires, mais je ne peux plus réformer un pays de la même manière qui a connu crise des gilets jaunes, crise sanitaire, qui connaît une crise internationale, qui est avec cette inflation, ce pouvoir d'achat, qui est une véritable obsession française. Je ne peux plus faire de la même manière, mais c'est vrai, le risque avec une association si forte de corps intermédiaires, c'est que le projet se délite et ce qui avait été mené extrêmement rapidement en 2017, en 2018, voire dans les derniers mois du quinquennat, soit moins vu et fasse l'objet de critiques. En tout cas, les parlementaires, le risque, c'est qu'ils nourrissent et ils créent des frondeurs. Et il y a toujours plus de frondeurs pour un président réélu dans un deuxième mandat que dans un premier, même si on en a vu sous François Hollande.
Admettons ce conseil de la refondation, ça serait comment ? Ça serait quand ? On n'a pas évidemment les contours, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer ? C'est un ersatz de ce qui a été fait avec le CESE, avec cette grande consultation citoyenne ou après, souvenez-vous quand même, le président donne espoir à énormément de gens en disant notamment sur des questions écologiques, et puis à la fin, il ne retient que très peu de ce qui a été.
Vraisemblablement, ce sera une commission Attali transposée sur les territoires. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il va réunir des gens qui vont discuter ensemble, et en fait, se pose une double question. C'est-à-dire que si on a un Conseil national de la refondation, à quoi ça sert de voter pour des députés LREM à l'occasion des élections législatives ? Parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté. Quoi qu'il arrive, il y aura un Conseil national de la refondation qui va décider sur les principaux sujets, le plein emploi, l'indépendance énergétique, etc. Donc à quoi sert le Parlement ? C'est la première question. Et la deuxième question, moi, que je pense qui est plus intéressante, c'est en fait à quoi sert l'élection d'Emmanuel Macron, dans la mesure où Emmanuel Macron avait désigné un cap. Emmanuel Macron avait désigné un cap et donc a été élu sur un projet. Si le Conseil national de la refondation porte des conclusions qui sont contradictoires au projet d'Emmanuel Macron, est-ce que celui-ci va se dédire ou est-ce qu'il va confirmer son intention comme à l'occasion de la Convention citoyenne ? Est-ce qu'il doit effectuer une synthèse ? Quel est le rôle des institutions et du Parlement ?
J'entends ce que vous dites, mais c'est là qu'il doit, contrairement à la Convention citoyenne, il doit clarifier. Ce Conseil national de la refondation, ça sera un instrument de concertation, d'écoute, mais au final, c'est le politique qui tranche, ce sont les députés qui votent les lois, les projets et qui les amendent, parce que sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, et un petit peu sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais beaucoup moins, les députés ont le pouvoir d'amender des textes. Mais il doit sortir de l'ambiguïté qui avait présidé à la Convention citoyenne, où au début il dit « je prends tout », puis après c'est « je prends tout » ou un « trois jokers », et finalement des choses ont été prises, mais finalement pas autant que ça. Je pense que l'important, c'est réaffirmer ce que les Français aiment plus que tout au monde, c'est le primat du politique. C'est le politique qui impose et qui mène le pays. Quand bien même il y a des assemblées ou des conseils ou des instances de concertation et d'aide.
Mais quand bien même, et je pense que vous n'avez pas assez insisté tous les deux sur ce point, pardonnez-moi, mais on est en démocratie représentative, on n'est pas dans le canton d'Appenzell où on vote la main levée, on ne va pas réunir des gens là devant l'allée centrale de Roland-Garros. Est-ce que vous êtes pour ou contre, je ne sais pas moi, cette histoire d'ABC, de ne plus retirer de points de permis de conduire si on dépasse de 5 km/h ? Mais ce que je veux dire, c'est que
j'entends très bien. Le problème.
Imaginez, député, vous allez peut-être l'être un jour, mon cher Frédéric.
Ah non, absolument.
Mais imaginez, après vous alors. Député de votre circonscription, et puis vous entendez ça, enfin, vous tombez de votre chaise quand même, non ?
Oui et non. Nous sommes dans un régime hybride, dans un régime.
Donc on n'est plus dans un régime représentatif.
Non, mais si, nous sommes dans un régime parlementaire, oui. Mais qui est complètement cannibalisé par ce qu'on peut appeler une forme de poison présidentielle, où le président, avec l'hyperprésidence, le quinquennat, la marginalisation, pardon de le dire, du poste du Premier ministre, semble décider de tout et tout régir.
Ça, il n'y est pour rien.
Ah non, mais
la Constitution de 58 qui fait ça. Hein.
Et puis, ça s'est accéléré avec l'inversion du calendrier électoral, le passage du septennat au quinquennat. Je crois qu'Emmanuel Macron a n'est pas un obsédé, si je puis dire, du quinquennat. Et tout ça, cette accélération, fait que la scène parlementaire, qui était déjà peu visible par les Français, a été marginalisée. Essayez peut-être de la faire, de la revivifier avec des corps intermédiaires autour, me paraît pas une mauvaise idée. N'oublions pas que ce qui a été un poison dans le... pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron dans les années 2017-2019, avant la crise sanitaire, ça a été le sentiment que les corps intermédiaires, élus, associations d'élus, CESE et autres, avaient complètement disparu.
Oui, enfin bon, c'est assez amusant parce qu'on ne l'a pas trop dit là, cette élection présidentielle, mais quand même, on l'a beaucoup dit durant les 20-25 dernières années, il faut supprimer le Sénat, il faut supprimer le Sénat, il faut supprimer le Sénat. Alors là, on ne l'a pas dit, mais il y en a qui disent encore qu'il faut supprimer le Sénat. Par contre, on va faire une nouvelle assemblée, un conseil de la refondation.
Oui, mais dans le même temps, on dit qu'il faut supprimer le Sénat, mais les Français étaient plutôt contents du travail du Sénat en termes de commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla notamment et sur d'autres, et sur l'affaire
Macron. Qu'est-ce qu'on dit des sénateurs qui sont les représentants du... je retrouve plus.
Des territoires, des collectivités
territoriales. Oui, non, mais il y a une expression, c'est pas grave, je vais retrouver entre temps.
Mais la question de la convention nationale de la refondation, en fait, est double. La première, c'est en fait, qu'est-ce qu'on garde en termes de démocratie? Et je pense qu'Emmanuel Macron considère que les corps intermédiaires ne sont pas légitimes et ne sont pas représentatifs, à la fois ceux du Parlement, ceux des syndicats et ceux des différentes associations d'élus. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on n'a jamais réussi à traduire sur pourquoi est-ce qu'on avait un tel désintérêt au niveau politique et pourquoi est-ce que l'abstention augmentait. C'est toute une question d'analyse. Est-ce que l'abstention augmente parce que l'offre politique n'est pas la bonne ou parce que les électeurs se désintéressent du sujet et qu'il faut du coup s'adapter aux électeurs, ou est-ce qu'il faut renforcer le pouvoir politique pour que le pouvoir politique puisse donner une vision et obtenir des résultats? C'est deux écoles qui sont complètement différentes. Et Emmanuel Macron considère que du coup, c'est plutôt les institutions qui sont mauvaises plutôt que son action politique. En même temps, c'est normal, il est président sortant, il ne veut pas dire que son action est mauvaise.
Il a été réélu.
Il a été réélu en plus. Donc du coup, il s'attaque plutôt à la question du corps intermédiaire. Et puis moi, j'ajouterai un dernier point en termes de vision. Est-ce qu'avec un Conseil national de la refondation, vous êtes en capacité de décliner une vision pendant les 30-40 prochaines années à venir, ce qui est demandé aujourd'hui à un président de la République?
Il y a le plan, il y a quand même... Mais... Oui. C'est vrai que quand on regarde le plan, quand on regarde le CESE,
le commissariat au plan,
on peut se dire qu'il y a peut-être des doublons pour ne pas dire des triplons. Pour autant, j'ai envie d'être prudent. Attendons de voir les contours de ce Conseil national de la refondation. C'est vrai que le clin d'œil au CNR des années 43-44 est absolument patent. Mais n'oublions pas que quand on interroge les Français, ils ont le sentiment que le pays est en déclin. Jamais on n'a eu un tel désarroi et une telle difficulté des Français à se projeter dans l'avenir, y compris après une élection présidentielle où, pour la première fois depuis que l'IFOP pose cette question, l'optimisme a baissé après une élection présidentielle où traditionnellement le pays a débattu, a confronté l'offre des différents candidats et repart de l'avant. Ça montre à quel point, et ça annonce en filigrane cette étrange campagne des élections législatives, cette présidentielle n'a rien tranché.
Voilà, et j'ai retrouvé ma phrase, et je comprends pourquoi est-ce que ça m'était resté dans l'oreille. C'est le doyen Vedel qui présidait l'université Panthéon Assas, qui disait ça à propos du Sénat: c'est l'assemblée du seigle et de la châtaigne. Ça vous prouvait à quel point les sénateurs étaient ancrés dans leur territoire. Peut-être un peu contrairement, c'est ce qu'on apprenait en droit constitutionnel, peut-être contrairement aux députés qui avaient aussi une carrière politique derrière eux, les sénateurs étaient quand même beaucoup plus ancrés dans les...
La suppression du cumul des mandats a fait beaucoup sur la déconnexion d'une partie des députés avec le territoire, on l'a bien vu depuis 2017.
Merci beaucoup à vous deux, merci Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion à l'IFOP et féru de tennis, très bon joueur de tennis, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, on verra, on
sera
un cours, et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Dans un instant, le journal de 19h. Et juste après, on s'intéresse aux océans, puisque dans 3 jours, c'est la journée mondiale des océans. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Comment protéger les océans dont on célèbre la journée mondiale dans 3 jours? On le saura juste après votre journal. Bonsoir Johan Tritz.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Puisqu'il est 19h sur Europe 1.
Et ici à Roland-Garros, El Rey quede El Rey, le roi reste le roi. 14e titre pour Rafael Nadal, il a dominé le Norvégien Casper Ruud dans une finale sans suspense derrière l'Espagnol de 36 ans et a mis quelques doutes concernant son avenir.
Et pas très loin de la gare du Nord à Paris, c'était la cohue aujourd'hui. Un câble d'alimentation arraché a fortement perturbé la circulation. Des milliers de voyageurs sont restés coincés pendant de nombreuses heures. On les entendra dans ce journal.
J-7 avant le premier tour des législatives, la campagne s'accélère, notamment pour les candidats du gouvernement. Certains sont en retard, on fait le point dans cette édition.
Et on prendra aussi la température à Londres, dernier jour de célébration pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Elle a salué la foule tout à l'heure à son balcon. On ira sur place avec notre correspondante Anaïs Cordoba.
La tendance météo, Valérie Darmon.
La dépression qui est à l'origine des intempéries de ce week-end s'éloigne, permettant le retour de belles éclaircies sur la façade est et un ciel plus variable, voire humide, à l'ouest.
Météo complète en fin de journal.
Europe 1.
Et ici, Porte d'Auteuil, on ouvre ce journal avec Roland Garros.
Europe 1, en direct de Roland Garros.
Il est toujours le King de Paris, 14e titre pour Rafael Nadal.
Et vainqueur en 3-7 du Norvégien Casper Ruud, 6-3, 6-3, 6-0. Une démonstration pour l'Espagnol qui rentre un peu plus dans l'histoire, Axel May.
Oui, ouais, je vous cite la une du grand quotidien sportif espagnol, Marca, qui explique ce soir « Nadal, un dios en la tierra ». J'ai à peine besoin de vous traduire, un dieu sur la terre. À 36 ans, il est désormais le vainqueur le plus âgé à Roland-Garros. Et une fois sa 14e Coupe des Mousquetaires reçue, Rafael Nadal a déclaré, comme il le fait après chaque victoire, quelques mots en français. Écoutez-le.
Pour moi, c'est incroyable de jouer ici. Avec un soutien incroyable de vous, pour moi, c'est très très joli. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde.
Voilà, Nadal a aussi expliqué que sans son encadrement, sans sa famille, il aurait pris sa retraite déjà. Au journaliste, l'Espagnol a ensuite confié que son pied gauche lui posait toujours beaucoup de problèmes. Il souffre, on le rappelle, d'une maladie dégénérative d'un os du pied. Rafael Nadal qui va enchaîner ce soir et demain les interviews avant de retourner chez lui au Baléar, à Manacor. Quant à son adversaire malheureux, le Norvégien Casper Ruud, il a eu ces mots pleins d'humour. Je ne suis pas la première victime en finale à Roland-Garros de Rafael Nadal.
Merci Axel May en direct de la Porte d'Auteuil à Paris. Et puis la bonne nouvelle du jour côté bleu, c'est la victoire de la paire tricolore Kristina Mladenovic-Caroline Garcia dans le double féminin.
Roland-Garros 2022.
L'événement tennis est sur Europe 1.
L'actualité du jour, c'est aussi le bilan des intempéries désormais connues.
Un mort, 15 blessés dont 2 graves. Il y a encore quelques heures, 15 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. De la pluie est attendue dans le quart est du pays, mais toutes les vigilances ont été levées.
On ne sait pas encore si cela a un lien, mais le trafic a été lourdement perturbé. Gare du Nord à Paris, et cela en plein week-end de Pentecôte.
Et des milliers de passagers toujours bloqués. Un câble d'alimentation a été arraché, provoquant l'arrêt total de la circulation dans la matinée. Alors qu'il est, le trafic a repris en douceur. Mais les retards s'accumulent, plus de 6 heures pour les trains à destination de Lille, Londres ou encore de Bruxelles. Certains sont toujours dans l'attente.
Nous devions partir midi 13 et nous sommes encore ici. C'est le big, big bazar.
Ça fait plus de 5 heures qu'on attend ici. Je ne suis pas contente du tout. Il n'y a eu aucune organisation. C'était vraiment terrible. On n'a même pas eu d'eau. Il n'y a pas eu de communication du tout. On ne reviendra pas.
C'est pas très agréable parce que je viens déjà du sud. Donc forcément, on aimerait que la correspondance soit là. Mais bon, j'ai un peu de compréhension aussi dans ces cas-là.
On dirait que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on aimerait. Le plus agaçant, c'est que personne n'a les mêmes infos. On entend des bribes, des ondits un peu partout.
Nous, on nous a dit que notre train a été annulé. On espère que des places se libèrent, mais sinon on va devoir s'organiser pour trouver un hôtel. C'est décevant, mais ce sont des choses qui arrivent.
Au micro de Nina Droff, qui était gare du Nord pour Europe 1.
19h05, dans une semaine tout pile, Johan, c'est le début du premier tour des législatives.
Et la Polynésie a pris un petit peu d'avance, déjà appelée aux urnes. Les résultats du premier tour sont tombés. 2 candidats de la majorité présidentielle sont en tête dans la première et deuxième circonscription. 1 indépendantiste dans la troisième. Aujourd'hui, les Français à l'étranger votent, verdict dans la nuit.
La campagne s'accélère et quelques candidats du gouvernement ont quelques soucis à se faire.
Oui, parce que la règle est simple, s'ils ne sont pas élus députés, ils ne pourront pas garder leur place. Arthur de Laborde, on s'approche de la ligne d'arrivée. Il y a de quoi avoir peur pour certaines candidatures de la majorité présidentielle.
Oui, 6 d'entre eux sont particulièrement menacés et c'est sans doute la secrétaire d'État à la mer, Justine Benin, qui aura le plus de mal à conserver son poste. Elle est en lice en Guadeloupe, dans une circonscription où la France insoumise est clairement en position de force. La bataille s'annonce aussi difficile pour le ministre délégué à l'Europe, Clément Beaune. Un sondage IFOP donne ce proche d'Emmanuel Macron battu dans la 7e circonscription de Paris par la candidate de l'Alliance de la gauche, Caroline Mécari. La NUPES peut aussi caresser l'espoir de faire tomber 2 autres figures de la Macronie, la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin dans l'Essonne, et le patron du parti présidentiel et nouveau ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, à Paris. Pour rester en charge du portefeuille de la santé, Brigitte Bourguignon devra, elle, batailler pour s'imposer face au RN dans le Pas-de-Calais. Enfin, fragilisée par des accusations de viol, l'ex-LR Damien Abad n'est pas assuré de l'emporter dans le département de l'Ain. Le ministre des Solidarités affronte un candidat de son ancien parti, déterminé à lui faire regretter d'avoir choisi de rejoindre le gouvernement.
Les précisions d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe.
Au Texas, près de 2 semaines après le drame d'Uvalde qui a fait 22 morts dans une école primaire, les États-Unis de nouveau en deuil.
Et avec une nouvelle fusillade qui a éclaté dans les rues de Philadelphie, au sud de New York, faisant 3 morts et 11 blessés, plusieurs tireurs ont été identifiés.
La situation en Ukraine maintenant avec les nouvelles menaces de Vladimir Poutine.
Et le chef du Kremlin prévient, l'Occident ne doit plus livrer d'armes à l'Ukraine sous peine de frapper de nouvelles cibles dans le pays. Coïncidence ou pas, Kiev a de nouveau été visé par des bombardements après un mois d'accalmie. Le peuple ukrainien qui doit aussi avoir un œil sur la rencontre ce soir de son équipe de football. La sélection nationale affronte le Pays de Galles en ce moment. 1-0 pour les Gallois. L'enjeu, une place en Coupe du Monde.
Direction Londres maintenant, où c'est la fête pour le dernier jour du jubilé de la Reine.
Oui, avec une petite surprise, la Reine a fait son apparition à son balcon pour venir saluer la foule. En ce moment a lieu la traditionnelle parade dans les rues de la ville. On retrouve notre correspondante Anaïs Cordoba sur place. Elle est comment l'ambiance là-bas ?
Eh bien, c'est la ferveur hein, qui a culminé au moment de l'arrivée de la reine sur le balcon. Elle est apparue souriante, très élégante, habillée en vert, accompagnée par ses 3 héritiers, les princes Charles, William et George. À ce moment-là, la foule s'est levée pour chanter l'hymne national. Un moment a donné la chair de poule. Hein. Imaginez-vous des milliers et des milliers de personnes qui entonnent God Save the Queen. Cette foule était réunie devant le palais et dans les rues avoisinantes depuis le début d'après-midi pour assister à la grande parade. Des écrans géants ont été installés un peu partout. Ce défilé carnavalesque et excentrique a retracé 70 ans de règne d'Elisabeth II. C'est le carrosse doré utilisé pour le couronnement qui a ouvert la parade. À la fenêtre de ce carrosse, un hologramme de la reine le jour de son couronnement saluait la foule. Voilà, et pour les Britanniques à qui j'ai parlé, même si les absences de la reine ont suscité un peu de tristesse pendant ces célébrations, ce jubilé a été un succès.
Merci Anaïs Cordoba, correspondante à Londres pour Europe 1. Anaïs Cordoba qui pourra peut-être suivre le dernier concert ce soir pour clore le bal. Ed Sheeran montera sur scène à Buckingham Palace avec la présence ou non de la reine. Suspense.
Et puis le Royaume-Uni qui va célébrer, comme de nombreux autres pays d'ailleurs, un autre anniversaire demain, le D-Day.
Les 78 ans du débarquement en Normandie, à 3h30 le 6 juin 1944, les premiers soldats arrivés sur les plages. Aujourd'hui, des parachutistes ont sauté ce dimanche devant la foule déjà présente, avec notamment, et pour la première fois depuis 2 ans à cause du Covid, la présence de Britanniques de retour en France pour le plus grand plaisir des commerçants normands. Reportage avec Mathieu Limongi.
Les drapeaux des alliés flottent dans chacune des rues, le chant des mouettes se mélange au bruit des valises et dans le centre-ville on parle anglais mais cette année l'accent est surtout britannique.
On a été très déçus de ne pas pouvoir venir depuis le Covid. On adore l'atmosphère, parcourir toute la côte. On participe aussi à toutes les festivités, c'est quelque chose que l'on adore, c'est un endroit incroyable.
Avant la pandémie, David venait ici chaque année depuis 20 ans. Un retour dont se félicitent bien sûr les commerçants.
Ils nous ont énormément manqué.
Marine gère des hébergements, mais aussi une boutique de souvenirs.
Ça fait 2 ans que tout est très très calme. Cette semaine, effectivement, les Britanniques sont en congé. En termes de chiffres, ça devrait bien s'annoncer.
Même son de cloche pour Clotilde, responsable d'un restaurant qui s'attend à une forte reprise. Sur la terrasse, son équipe dresse des tables, déjà toutes réservées.
C'est plein, c'est noir de monde. C'est le plus gros week-end de l'année. Vu qu'il y a beaucoup de monde, on peut faire 2 services. C'est du rush, on travaille plus.
À Bayeux, pour les commerçants comme pour la mairie, on espère une année record.
Reportage de Mathieu Limongi pour Europe 1.
Et le sport, ça continue tout à l'heure dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre, avec beaucoup de tennis évidemment. Roland Garros, on va célébrer Nadal et cette 14e victoire très impressionnante avec nos invités. Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis, sera parmi nous. Mais également Julien Bento, le capitaine de l'équipe de Fed Cup, mais qui connaît bien le circuit masculin. D'autres invités également avec Mickaël Jérémiaz. On sera en direct aussi d'Espagne avec notre correspondant Juan José Dorado qui nous dira quelle portée la victoire de Nadal a en Espagne. Parce qu'en France, on a le sentiment qu'il est vraiment chez lui, qu'il incarne totalement ce tournoi. Il l'a même dit après la victoire contre Roud aujourd'hui. Je me sens à la maison. On parlera de tout cela ce soir dans Europe 1 Sport.
Merci mon cher Lionel, on vous retrouve tout à l'heure.
Et pour rester dans le sport, Pierre, Fabio Quartararo a remporté le Grand Prix de Catalogne tout à l'heure. C'est de la MotoGP. Il augmente son avance en tête du classement des pilotes. L'autre Français, Johan Zarco, termine 3e.
Oui, et vous savez pourquoi il a terminé 3e?
Parce qu'il a été moins fort que Fabio Quartararo.
Non, il termine 3e parce qu'il y avait 3e, ça aurait dû être Alex Espargaro. Mais il s'est arrêté un tour avant la fin de la course. C'est le genre de truc qui n'arrive jamais. C'est une histoire belge, quoi. C'est absolument hallucinant en course de moto Grand Prix. Et d'ailleurs, il s'est confondu en excuses en disant je ne sais pas. En Formule 1, il y a des ordres quand même dans le casque. Je regarde Lionel Rousseau désespérément.
Ce que je veux dire,
il doit y avoir des
ordres. C'est ballot pour Espargaro. Ce n'est jamais arrivé.
Voilà, c'est jamais. Une histoire, à mon avis, qu'on gravera dans les annales. Merci beaucoup, mon cher Yann Pritz.
Merci Pierre De Villeneuve, grand expert de la moto GP. On a vu.
Écoutez, j'ai lu la dépêche comme tout le monde tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon, avec des averses et puis un temps calme au sud.
Effectivement, près des frontières du Nord, après quelques pluies en début de journée, les éclaircies reviennent dans l'après-midi. Un petit peu moins sur le nord-ouest du pays, de la Bretagne au centre, au Pays de la Loire, où le ciel se couvre dans la matinée, donnant même quelques pluies. Le pourtour méditerranéen conserve de son côté un temps sec et lumineux. Du sud-ouest jusqu'au Grand Est, quelques averses sont toujours possibles, plus nombreuses et localement orageuses sur les reliefs. Les maximales, 17 à 22 de la Manche au Pays de la Loire, 20 à 25 sur le reste de la France, jusqu'à 35 sur le pourtour méditerranéen et en moyenne vallée du Rhône et 23 à 27 ailleurs.
Merci Valérie Darmon, 19h12, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h ici à Roland-Garros où il n'y a plus de soleil, les allées principales du stade se font plus rares en monde évidemment, la grande fête est terminée, Nadal remporte son 14e titre de Roland-Garros, 22e titre du Grand Chelem, on en parlera tout à l'heure dans Europe 1 Sport, dans Service Pioline également à 19h45 et nous dans un instant on s'intéresse aux océans, à tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h ici à Roland-Garros où on va pas parler de tennis, enfin pas tout de suite parce que Cédric Pioline arrive à 8h moins le quart. On va parler des océans, c'est la journée mondiale le 8 juin prochain et je vous signale d'ailleurs qu'Europe 1 s'associe à cette journée mondiale et que toute la journée du 8 juin nous suivrons justement la problématique des océans. Bonsoir à vous Alexia Barrier.
Bonsoir.
Vous êtes navigatrice, vous avez fait le Vendée Globe en 2020, en 2021. Bonsoir à Alexander Yachin.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de la Fondation de la Mer. Les océans, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est 71% de la surface du globe. Donc ça devrait nous intéresser. Et aujourd'hui, alors que la France, même si le président réélu a mis le cap sur l'écologie parce que c'est important, parce qu'il faut faire des efforts, parce qu'il y a 2050 en perspective, parce qu'il y a des COP qui se suivent les unes les autres, on parle beaucoup des efforts sur Terre. Et j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me corriger, Alexander Yachin, j'ai l'impression qu'on parle un peu moins des efforts en mer.
Bon, on n'en parle pas assez en tout cas. Et c'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait une journée mondiale de l'océan pour tout à coup s'intéresser aux océans. Vous le soulignez, c'est juste 71% de la surface de la planète. Si on prend un peu de hauteur, la particularité de notre planète, c'est qu'elle est bleue. Et elle est bleue parce qu'il y a de l'eau dessus. Et 97% de l'eau de la planète, il se trouve que ce sont les océans. Et il se trouve que...
Et pourquoi l'eau est bleue? Parce que ça, c'est un de mes enfants qui me demandait l'autre jour. C'est le corail?
Alors non, l'eau n'est pas bleue à cause du corail, mais je ne pense pas qu'on va épigler là-dessus. Mais il se trouve que les océans sont bleus et c'est les océans bleus qui rendent notre planète bleue. Et la vie est née dans l'océan. Et la vie n'est pas possible aujourd'hui sans les océans, qui sont la machine climatique de notre planète. Et donc, quand on prétend se mobiliser pour le climat, pour la biodiversité, faire abstraction des océans, c'est une erreur monumentale, colossale, et donc il est bon qu'on puisse s'intéresser aux océans, et on peut saluer les actions qui sont conduites au niveau international, et en particulier par la France, parce que la France a cette vocation à être leader en matière de gestion et de protection de l'océan. On peut saluer ce qui est en train d'être fait, et c'est la vocation de la Fondation de la Mer aussi d'attirer l'attention du public sur cette responsabilité qui est la nôtre.
Alors, il faut faire plein de choses. Il y a juste une chose que je voudrais comprendre, et c'est pas le bateau de course d'Alexia Barrier qui va être en cause, mais lorsque vous regardez, notamment grâce au service de la Marine nationale, le trafic de la marine, j'allais dire commerciale, des tankers en temps réel, notamment dans certaines mers, notamment la mer Méditerranée, il n'y a plus une goutte d'eau. Alors comment est-ce qu'on peut allier et se vanter de ce trafic maritime qui est sans cesse jour et nuit avec la volonté de rendre les mers plus propres? C'est possible?
Alors, c'est possible d'abord. La mer, elle est menacée aujourd'hui. Son équilibre est menacé. La principale menace, elle vient de l'action de l'homme à terre. Alors, on estime qu'il y a 80% de la pollution en mer qui provient directement de l'action de l'homme à terre. Ce sont les déchets plastiques, 19 tonnes de plastique à la minute qui sont déversées dans l'océan.
C'est 19 tonnes à la minute en 2022. C'est-à-dire que les gens n'ont toujours pas compris.
En 2022, et peut-être vous avez suivi un rapport de l'OCDE qui a été publié en fin de semaine.
Parce que ça fait juste à peu près 50 ans qu'on le dit, ça, non?
Ça fait à peu près 50 ans qu'on le dit. Simplement, la production de plastique et les déchets plastiques, ils croissent encore. Donc, on n'a pas encore pris la mesure des enjeux qui sont devant nous et on va arriver à une saturation.
Alexia Barrier, lorsque vous naviguez, ou d'ailleurs à quai, comment est-ce que vous vivez cette protection de la mer, cette mer qui fait partie de vous, en fait?
Alors, il y a 12 ans, j'ai créé l'association For My Planet pour la préservation de l'océan. Parce qu'en arrivant d'une course que j'ai gagnée en équipage, la Maxi Transatlantic Race, qui est arrivée en Angleterre, j'étais la seule femme à bord sur un bateau. On était 25 équipiers, la seule française. Et j'avais un rôle très important à bord de ce bateau. J'aurais juste dû être super fière. Et en fait, arrivée proche des côtes anglaises, j'ai eu la nausée, envie de vomir en voyant la quantité de déchets et de choses infâmes qui flottaient à la surface de l'eau. Donc, quand on est au large, on le voit moins. Plus on approche des côtes, plus c'est concentré. Et les courants ramènent tous ces déchets à certains endroits de la planète. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était important d'agir concrètement avec For My Planet, mon association. On travaille avec des scientifiques, on prend des données sur l'eau. J'ai des capteurs sur mes bateaux de course, des données qui permettent la recherche océanographique. Donc, on a ramené des millions de données. On a aidé à étalonner un satellite européen. On a aussi un programme éducatif. Plus de 100 000 enfants qui nous suivent aujourd'hui à travers le monde. Et ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui pour l'océan. C'est raconter des histoires aux enfants sur la mer, leur donner envie de se l'approprier, de l'aimer, même s'ils habitent très loin de l'océan, et de leur faire comprendre que chaque action a un impact direct sur l'océan.
Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que les enfants qui ensuite grandissent et qui rêvent de la mer et qui rêvent d'être des navigateurs, eux-mêmes ensuite se voient jeter des sacs plastiques ou des déchets dans la mer. Donc il y a quelque chose de totalement paradoxal. Est-ce que, comme on ne peut pas être derrière tout le monde, il y a quelques jours sur Europe 1, j'entendais ce reportage où il y avait les incivilités au volant et il y avait un automobiliste qui a vu une jeune femme jeter sa cigarette par-dessus la fenêtre de sa voiture. Il est sorti de sa voiture, il a pris la cigarette, il a rejeté à l'intérieur de la voiture de la jeune fille. Comme on ne peut pas faire ça, comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, cartographier? Est-ce qu'il y a un système GPS où on pourrait dire, tiens, il y a tel bateau qui a balancé tel de chance de rien, et puis on va lui mettre une amende? Est-ce qu'il y a un côté répressif qui serait possible, qui existe déjà peut-être? Comment ça se passe?
Il faut savoir que le droit maritime, en tout cas la protection de l'océan, n'existe pas. Dans les eaux internationales, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi et pour nous, c'est cool, les navigateurs qui font de la course large parce qu'on se sent très libre. Mais pour les méchants, entre guillemets, ceux qui vont aller polluer ou pêcher à des endroits où ils n'ont pas le droit de pêcher, etc., c'est une vraie problématique. Et là, il faut absolument que les États s'entendent pour vraiment mettre en place une réglementation internationale.
La pollution de la mer, c'est en chiffres, Alexander Yachine, c'est quoi, ça donne quoi et quelle est la dangerosité de cela, justement, des plastiques en l'occurrence?
Alors les plastiques, ils sont dangereux pour les écosystèmes marins parce qu'ils vont très vite se transformer en microparticules, puis en nanoparticules. Et donc ils vont tapisser le fond de la mer, ils vont être ingérés par tous les organismes, ce qui fait qu'on voit là une perturbation des écosystèmes qui est gravissime. Et on trouve aujourd'hui des déchets plastiques dans les fosses abyssales les plus profondes, dans la fosse des Mariannes.
Ces fameux fonds marins qu'on a pour certains pas encore explorés.
Et la France, ça c'est une étude que vient de publier la Fondation de la Mer, la France est à la tête, elle a le patrimoine maritime le plus vaste, l'espace maritime le plus vaste en ce qui concerne les grands fonds marins. On entend par grands fonds marins les fonds marins qui sont en deçà de 1000 mètres de profondeur. Mmh. C'est là où il y a une modification particulière des écosystèmes. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que ces grands fonds marins, ils sont essentiels pour l'avenir de l'humanité. D'abord, ils vont devenir une source de convoitise économique parce qu'on y retrouve des terres rares, des modules polymétalliques, et donc qui sont essentiels pour la transition écologique qui est devant nous. Ils sont aussi une source essentielle de biodiversité, et cette biodiversité qui est une promesse pour notre santé, pour la recherche pharmaceutique, biologique. On pourrait citer les médicaments de demain, les antibiotiques de demain. Il y a dans un litre d'eau de mer plus d'un milliard de virus. Et il se trouve que certains de ces virus sont essentiels parce qu'ils sont probablement l'avenir du monde post-antibiotique. On voit aujourd'hui que les antibiotiques...
Ce seraient les médicaments de demain.
Alors, ce seraient les médicaments de demain parce qu'ils permettent d'attaquer les bactéries, et notamment les mauvaises bactéries pour certains. Et donc, ils peuvent nous permettre de faire face au monde post-antibiotique qui arrive beaucoup plus vite qu'on on le pense.
Et puis, il y a ces poissons, je ne sais pas si on peut encore parler de poissons, qui sont dans les abysses les plus profondes, qui créent eux-mêmes de la lumière.
Alors, la bioluminescence...
C'est absolument étudié par les... par la Silicon Valley, par des grands chercheurs qui pourraient effectivement, non pas supplanter, mais aider à faire moins d'électricité.
Alors absolument, la bioluminescence, c'est un phénomène qui est passionnant. Plus généralement, on parle de biomimétisme, c'est-à-dire les innovations inspirées du vivant. Et ça, c'est passionnant. Il y a aujourd'hui une société française qui développe de l'éclairage urbain à partir de la bioluminescence qui est présente dans les océans.
Mais comment font-ils ?
Ils cultivent les bactéries, qui sont des bactéries d'origine marine et qui produisent de la lumière. Et donc, dans des gros tubes d'eau de mer avec des bulles...
C'est dément.
Oui, c'est dément. Et c'est extraordinaire. Et la ville de Rambouillet est une ville pilote pour de la bioluminescence, de l'éclairage urbain à base de bioluminescence d'origine marine.
Quand vous voyez toutes ces espèces incroyables, Alexia Barrier, vous, dans votre combat pour la mer, qu'est-ce que vous voulez faire en plus de ce que vous faites déjà?
Alors, sur le Vendée Globe, j'ai passé 111 jours en mer. Et quand on se retrouve dans le sud de l'Indien et du Pacifique, où il fait vraiment très mauvais, dans des creux de 8 mètres, des vents...
C'est pas encore le cas ici à Roland-Garros,
non,
mais on a une belle saucée, comme on dit.
Des vents violents, etc. Et on se sent vraiment un invité, en fait, parmi les oiseaux qui s'amusent autour du bateau, parmi les albatros et les autres espèces d'oiseaux qui évoluent. Et on se rend compte à quel point, quand on est loin, quand l'homme est loin de la vie sauvage, à quel point les animaux peuvent évoluer de manière libre et sans crainte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est primordial de redonner la place, de la place à la nature, de la place aux espèces, à la vie sauvage, pour qu'on ne perde pas le fil de notre humanité, parce qu'on est tous reliés sur cette planète.
Est-ce qu'on arrive assez à montrer la mer? Est-ce qu'il y a assez, je vais enfoncer une porte ouverte, est-ce qu'il y a assez d'aquariums? Est-ce qu'il y a assez de lieux? Est-ce qu'il y en a un très beau au Croisic, par exemple? Est-ce qu'il y a assez pour montrer aux gens ce que c'est, ce que ça représente? On ne va pas faire les documentaires parce qu'il est évidemment plus sympa, j'utilise ce mot-là alors que évidemment je m'en moque, mais il est très très galvaudé ce mot. Mais les gens préfèrent regarder une série télévisée sur Netflix plutôt qu'un documentaire animalier, alors qu'il y a peu de temps il y a eu ce documentaire sur cet homme qui partait tous les jours à la rencontre d'un poulpe qui a fait je ne sais pas combien de vues.
Ordinaire.
Donc est-ce qu'on montre assez la mer?
C'est de rendre les contenus plus sexy avec les Kids Format et Planète, on leur offre à partir de cette année de la réalité virtuelle. Donc à nous d'être intelligents, d'utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Et de rendre les choses accessibles en immersion grâce à la réalité virtuelle. L'émotion préside l'action. Donc si on peut donner une émotion à quelqu'un, on sait que derrière, il y aura une action, une prise de conscience. Et c'est grâce aussi à ce genre de technologie qu'on va y arriver.
Oui, alors justement, je parlais des aquariums, vient évidemment l'idée des delphinariums. Là, il y a une controverse, c'est-à-dire est-ce qu'on peut montrer ce qu'il y a dans la mer ou est-ce qu'on ne doit plus le montrer parce que justement, ces animaux ne sont plus en liberté ?
C'est has-been avec la nouvelle technologie, on peut montrer sans avoir de vrais animaux emprisonnés, mais que ce soit une tortue.
Vous vous dites, ils sont emprisonnés.
Ils sont aujourd'hui ceux qui existent et qui sont dans les bassins, ils n'ont pas le choix que d'y être, ils y sont nés pour la plupart. Mais on peut changer de modèle en fait. C'est juste de foutre la paix à ceux qui sont aujourd'hui, par exemple, dans un parc pas très loin de chez moi, dans le sud de la France, en Méditerranée, et de leur donner une belle fin de vie, une belle retraite, en laissant vraiment tranquilles les gens qui gèrent ces animaux dans le parc, tous les médecins, les soigneurs, etc. Et ensuite de changer de modèle. On peut progresser quand même, on peut inventer des nouveaux concept.
Et bien justement, le progrès, il est là, on va en parler avec Alexandre Yachine, directeur général de la Fondation de la Mer, et Alexandra Barrier, la navigatrice, qui vous fait rêver, qui fait rêver les enfants. 19h28, on revient dans un instant dans Panorama, à tout de suite.
Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Et dans Europe Soir Weekend, les débats de Panorama, passionnants à 3 jours de cette journée mondiale des océans. Nous sommes avec la navigatrice Alexia Barrier et Alexander Yachine, qui est le directeur général de la Fondation de la Mer. La Fondation de la Mer qui a publié un rapport il n'y a pas très longtemps parce que la France est une grande puissance maritime à plusieurs titres. D'abord, on a une marine nationale qui quand même a rien à envier. Alors, par rapport aux Américains, évidemment, c'est en nombre de bateaux, c'est pas génial, mais on a quand même un savoir-faire dans la marine qui est assez exceptionnel. On a Orange, pour ne pas la citer, qui câble les câbles dans les fonds marins.
Stratégique pour nous.
Absolument stratégique pour la France. Il y a plein de choses. Et en même temps, et on va y venir après avoir détaillé votre rapport, c'est qu'il y a quand même des bateaux, hein, et je le disais, ce trafic maritime, qui, même s'il y a des biocarburants, etc., continue à la fois, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est la puissance maritime commerciale de la France, c'est qu'on a des bateaux en mer, et en même temps, ils polluent. Alors, comment on fait ?
Bah, il faut amorcer cette indispensable transition écologique. Il y en a qui le font. On peut citer CMA-CGM qui s'est engagé dans cette démarche. Ça prend du temps, c'est compliqué. Pour les y accompagner et accompagner tous les acteurs, la Fondation de la Mer a créé un label Ocean Approved, en bon français, mais parce que c'est un label international, qui est une première mondiale, qui est une traduction opérationnelle, je vais être technique 2 secondes, pour les entreprises de l'ODD 14, l'objectif de développement durable numéro 14 de l'ONU, qui porte justement sur la préservation de l'océan. Et ce label, il permet à n'importe quelle entreprise, bien sûr les entreprises du monde maritime, mais pas exclusivement, parce que toutes ont un impact direct ou indirect avec l'océan, n'importe quelle entreprise peut agir et devenir un acteur de la protection de l'océan, justement en agissant sur ces activités et en engageant cette transition écologique.
Et donc, dans ce rapport, quoi d'autre de saillant ?
Écoutez, c'est une première mondiale. Avec le cabinet Advention, on a compilé, consolidé toutes les bases de données qui existent. Vous savez que les fonds marins, c'est le royaume de l'inconnu. On ne les a pas cartographiés ou très peu.
Ils font presque peur hein, quand on voit certaines abysses.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on va découvrir ?
Mais qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Simplement, ce qu'on y découvre en général, ce n'est pas du tout ce que notre inconscient nous dicte à l'oreille. En fait, on découvre une richesse de vie absolument extraordinaire, y compris là où il n'y a plus du tout de lumière. Mmh. Et on a découvert justement des organismes qui ont tout à nous apprendre quant à la manière dont ils survivent dans des environnements qui sont très difficiles. Le rapport que la Fondation de la Mer vient de publier avec le cabinet Advention, il a mesuré, en compilant toutes ces informations, que la France était le premier pays en termes de surface de grands fonds marins. 9,5 millions de kilomètres carrés de grands fonds marins, c'est 93% de notre zone économique exclusive, c'est-à-dire de notre espace maritime où on trace un trait de 200 000 à partir des côtes. Pourquoi c'est important ? Parce que les grands fonds marins, comme je disais, c'est un lieu qui va être pris d'assaut. C'est encore le Far West, on est, nous, la haute mer, c'est le Far West. Chaque pays est souverain sur ses propres espaces maritimes. Mais nous, on a vraiment cette possibilité d'être exemplaire et de vraiment de dicter une exemplarité en matière de gestion durable. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut d'abord explorer. Parce que pour pouvoir bien protéger, pour pouvoir éventuellement un jour exploiter, mais alors de manière durable et raisonnée, il faut d'abord explorer, il faut savoir ce qui s'y trouve.
Oui.
Et le plan France 2030, il prévoit quelques petits 300 millions d'euros pour l'exploration des grands fonds marins, c'est 1% du plan de relance. Il faut aller plus loin, il faut aller davantage. C'est pour ça que la Fondation de la mer a formulé 6 grandes recommandations pour que la France puisse s'engager encore davantage en matière d'exploration des fonds marins.
Donc lire absolument ce rapport de la Fondation de la mer. Écoutez aussi le podcast Périscope du Centre d'études stratégiques de la marine qui est paru dernièrement justement sur les fonds marins et vous apprendrez des choses. Alexia Barrier, j'en reviens aux bateaux. Les bateaux, on les voit parfois, alors c'est pas seulement les tankers, c'est aussi les bateaux de course, mais les bateaux de plaisance. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils sont en train de muter un peu comme, j'allais dire, une voiture à diesel et versus une voiture électrique?
Il y a une réelle prise de conscience, notamment la course large, mais globalement dans les industries nautiques, sur notre impact en termes de pollution, parce qu'un bateau en carbone, évidemment, une fois qu'on s'en sert plus, ça ne sert pas de pot de fleurs, hein, il faut réussir à le recycler. Et aujourd'hui, on n'est pas très bon là-dedans. Donc aujourd'hui, on a l'exemple de Roland Jourdain qui va prendre le départ de la Route du Rhum avec un bateau construit en fibre de lin. On essaye de développer des nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement. Personnellement, je m'engage à ne pas partir sur un bateau neuf sur ma prochaine course tant qu'on n'aura pas progressé en termes de construction navale sur la course au large. Et il y a vraiment un mouvement global des coureurs pour progresser.
On peut vous applaudir pour ça. Hein. Franchement, c'est assez inédit comme déclaration et tout à fait qui a du sens, évidemment. Moi, ce qui me fait toujours, j'allais dire, mal au cœur, alors on en parle plus, je touche du bois. Est-ce que c'est du bois? J'en sais rien. En tout cas, je touche quelque chose pour me dire que les marées noires, ça c'est, on a vécu ça par le passé, un tanker, souvent avec du gasoil ou encore pire, des matériaux dangereux, qui s'éventrent en plein milieu de la mer. Est-ce qu'on a fait des progrès là-dessus? Est-ce qu'on a des législations? Est-ce qu'il n'y a plus ces grands bateaux poubelles qui circulent et qui sont à deux doigts de s'éventrer en pleine mer?
Je pense que vraiment ce risque existe encore. Et quand on voit au large de la Corse à quelle distance des bateaux avec des marchandises dangereuses passent des côtes, alors qu'on sait qu'il peut y avoir des coups de vent terribles en Méditerranée, ça me fait trembler, tout comme vous. C'est vraiment une grosse problématique. On s'est amélioré sur la manière de récupérer peut-être les hydrocarbures, mais le mal est fait une fois que le bateau est ouvert en deux.
Quel impact des marées noires sur la mer? Est-ce que c'est à long terme? Est-ce qu'il faut attendre 20 ans, Alexander Yachine, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans pour que les méfaits d'un accident comme celui de l'Erika
Oui, les marées noires, elles ont un impact qui est dramatique, qui va au-delà de ce qu'on peut voir sur les côtes, évidemment, parce que ce sont des hydrocarbures qui vont durablement polluer le fond des mers. Mais d'une certaine manière, et c'est dramatique, et l'effet d'attention du grand public est immédiat et dramatique. Mais d'une certaine manière, ce qui est pire, c'est la pollution silencieuse, invisible des océans, qui, elle, est quotidienne. Et on parlait du plastique, il n'y a pas que le plastique. Il y a une pollution qui est constante. Alors, on parle beaucoup du trafic maritime. Mais encore une fois, attention, hein, 80% de la pollution qu'on retrouve dans les océans, c'est une pollution qui vient des activités de l'homme à terre. Donc, bien sûr, il faut que le trafic maritime s'améliore.
Donc, 20% seulement.
20% seulement.
Le diesel des bateaux.
20% seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, tous, on a une capacité à agir pour protéger l'océan. Alors, les Français particulièrement, parce qu'on a cet espace maritime qui est absolument exceptionnel, deuxième espace maritime au monde. On a, dans nos eaux territoriales, 10% des récifs coralliens. Excusez du peu, mais c'est fondamental quand on sait que 25% de la biodiversité marine dépend directement de ces écosystèmes. On a 20% des atolls qui abritent des écosystèmes aussi qui sont uniques au monde. Et donc, on a cette impérieuse nécessité à être exemplaire, mais on a cette capacité à agir chacun d'entre nous. On a tous vu ces bouches d'égout dans les villes où il y a marqué « La mer commence ici ». Bah oui, moi, si je trie bien mes déchets, si je suis attentif à la manière dont je consomme, si je suis engagé en m'informant, en participant, pourquoi pas, à des collectes de déchets organisées par la Fondation de la mer, en rejoignant, pourquoi pas, le programme SOS Corail de la Fondation de la mer, et aller, pourquoi pas, en allant dans les classes pour s'engager et mobiliser les jeunes qui sont...
C'est ce que j'allais vous demander.
De s'engager. Ouais. Eh bien, nous, on est partenaires
Fondation de la mer de l'éducation nationale.
Est-ce que on va en ce 8 juin aller, est-ce que vous allez les uns les autres aller dans les classes pour justement faire de la pédagogie partout?
Oui, nous on organise Alexa une Barrier. Conférence à Monaco avec des différents intervenants, des scientifiques, des coureurs au large, des femmes navigatrices et des enfants. Ce sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux, sur Format et Planète et les réseaux sociaux de la mairie de Monaco. C'est très important de donner la parole aux scientifiques, aux enfants. Les enfants, pourquoi? Parce qu'ils ont des idées absolument géniales, très souvent. En tout cas, ils sont très pertinents. Et les scientifiques, parce que c'est la réalité de la vie de l'océan qui est retranscrite dans leur parole.
Ce qui est génial à Monaco, c'est que vous avez un souverain qui est très, très impliqué dans cette affaire.
À Monaco, évidemment, avec la fondation du prince Albert II de Monaco et plein de conférences et d'événements qui ont lieu tout au long de l'année, chaque année, pour donner la parole à l'océan.
Mais Monaco, c'est une chose. Après, il faut prêcher la bonne parole partout, dans les quartiers, dans les territoires, dans les écoles où la mer, c'est... Enfin, je veux dire, il y a quand même aussi de jeunes enfants qui, en France, pour des problèmes purement financiers, n'ont jamais vu la mer. Donc,
absolument.
Il faut leur montrer et leur dire ce que c'est et pourquoi c'est important.
Absolument. Il y a un programme de la Fondation de la mer qui accompagne les jeunes à ça. Et tous les enfants, où qu'ils se trouvent, ont vocation à être sensibilisés justement à leur impact sur l'océan, à leur manière de s'engager et à l'impérieuse nécessité d'agir parce que ces écosystèmes, ils sont essentiels pour notre quotidien, où qu'on se trouve. Où qu'on se trouve, sur le littoral ou alors au centre des terres.
Un mot pour terminer, Alexander Yachine, de la Marine nationale,
oui,
qui fait un gros travail aussi pour la protection des océans.
Fabuleux, essentiel, elle a besoin d'être soutenue. On a une Marine nationale. D'ailleurs, on n'a pas une armée de la mer. Hein. Mm. Donc, on a vraiment une...
Oui, c'est ça.
Une marine...
Il n'y a pas forcément un aspect belliqueux. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une frame qui passe.
Absolument,
voilà.
absolument.
Ou un BPC.
Absolument. Et qui assure la sûreté et l'action de l'État en mer. Elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être encouragée. Elle a engagé un travail essentiel, justement, pour amorcer la transition écologique dont on parle, est vraiment exemplaire. Elle n'est pas toujours exemplaire pour pouvoir communiquer sur ce qu'elle fait de très bien. Donc,
ah,
merci.
C'est de mieux en mieux quand même.
De mieux en mieux, mais cela dit, merci de le souligner parce que ça mérite de l'être.
Oui, ça mérite de l'être. Merci en tout cas à vous tous, à vous trois, à vous deux. Moi, je n'arrive plus à calculer. Vous êtes deux, mais il y a tellement de choses, tellement de matière à dire à propos de cette journée des océans que j'ai l'impression que vous étiez plusieurs. Merci beaucoup Alexia Barrier, bravo pour votre
Merci.
Implication.
Merci.
Et je retiens cette information, vous ne prendrez plus la mer sur un bateau neuf tant qu'il n'aura pas été, exemplaire au niveau écologique. Et merci à vous, Alexander Yachine, directeur général de la Fondation de la mer. 19h42, dans un instant, c'est Service Pioline pour le résumé de cette finale incroyable ici à Roland-Garros. A tout de suite.
Europe 1, Service Pioline.
Service Pioline, bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Et 1, et 2, et 3, et 14. Titre pour Raphaël Nadal.
Ouais, ouais, ça paraît incroyable que de dire ça
à Roland-Garros.
À Roland-Garros, hein, juste à Roland-Garros. 22 titres au total en tournoi du Grand Chelem. 6-3, 6-3, 6-0, 2h28 face à Casper Ruud, ce Norvégien, jeune Norvégien qui n'avait jamais encore disputé une finale en Grand Chelem. En plus, pour l'anecdote, on le rappelle, c'est tombé contre son idole d'enfance, jouer une finale face à Rafael Nadal. Ce n'est jamais évident et je vous propose de revivre la balle de match, l'annonce de la victoire de Nadal et puis ses premiers mots en anglais sur le court.
Rafael Nadal.
It's completely amazing the things that are happening.
C'est complètement fou ce qui arrive cette année, explique Rafael Nadal. Il remercie alors son encadrement, sa famille, expliquant que sans eux, avec ses blessures, hein, il aurait sans doute déjà pris sa retraite.
We went through in terms of injuries. If I don't have a great,
voilà, ce que je vais expliquer sur sa retraite, ses blessures. Et après, actuellement,
moment difficile. Hein,
et actuellement, il est en conférence de presse puisque après ça se passe comme ça. Vous gagnez une première déclaration sur le cours. Ensuite, vous faites les télévisions qui ont les droits. Puis la conférence de presse générale. Et là, actuellement, il est en train d'expliquer que oui, il avait extrêmement mal à son pied gauche, que la retraite, finalement, il n'y pense pas tout de suite et qu'il a envie toujours de continuer, d'aller de l'avant. Il envisage déjà d'aller à Wimbledon. Et on rappelle, il a remporté l'Open d'Australie alors qu'il revenait de blessure en janvier. Là, il revient de blessure, il a toujours ce pied gauche qui le fait souffrir. Il gagne Roland-Garros. Donc pourquoi pas maintenant, avec Rafael Nadal, se dire qu'il serait capable de faire ce qu'a failli réaliser l'an dernier Djokovic, à savoir le Grand Chelem. Il suffirait qu'il gagne, entre guillemets, il suffirait Wimbledon et l'US Open.
C'était complètement incertain, en fait. C'est-à-dire qu'il était incertain au tournoi. Il arrive et puis finalement, il se passe cet accident avec Zverev où honnêtement, enfin, souvenez-vous quand même de cette demi-finale, on était au touche-touche. Hein, c'était 15-0, 15-A, 30-15, 30-A, etc., etc. C'est-à-dire que vraiment, on ne savait pas si c'était Alexander Zverev qui allait l'emporter ou Rafael Nadal. Et puis finalement, il y a eu cet accident. Il y a quand même ce qu'on appelle communément, et ça a été dit en politique pour Emmanuel Macron en 2017, mais là, il y a un alignement des planètes qui est quand même assez dément, quoi.
Il a fait, en fait, on avait tendance à l'oublier parce que lui-même n'arrêtait pas de dire en début, avant le tournoi, qu'il il doutait de son corps, de sa condition physique. Donc lui-même répétait ça, qu'il avait de plus en plus mal aux pieds. Il évoquait, on l'a entendu là dans l'extrait, sa retraite. Donc il nous a quand même surpris. Et après, il y a cet alignement des planètes, mais c'est ce qui fait aussi la marque des grands champions. Et Rafael Nadal, de ce côté-là, il est assez chanceux. Cédric Pioline, bonsoir. Vous êtes passé entre deux gouttes de deux averses là, parce que la pluie s'est mise à tomber sur Roland Garros et sur Paris. On disait avec Pierre de Villeneuve, 14 Coupe des Mousquetaires, il est toujours là, alors qu'on dit qu'il a mal aux pieds, alors qu'on dit qu'il a, enfin ça on ne dit pas, il a 36 ans, il est là et il écrase la concurrence. Cette finale, elle était à sens unique.
Oui, complètement à sens unique. Le miracle qu'on attendait n'a pas eu lieu. Même ça a été, je pense, un petit peu douloureux hein, pour son adversaire qui a complètement coulé dans son tennis. Et émotionnellement, plus le match avançait, 14 titres du Grand Chelem, c'est absolument... juste pour Roland Garros, hein, on parle, c'est stratosphérique. Donc oui, après, c'est vrai que... il y a plein d'interrogations qui arrivent hein, suite à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe à 22 contre 20, titre du Grand Chelem contre Djokovic. Il est en passe de finir numéro 1 mondial. On est à mi-saison. Il a déjà une avance assez confortable à la race. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent et de questions qui arrivent, à savoir quel sera son programme pour les prochaines semaines ou mois à venir.
Alors je tiens à préciser que là, dans cette conférence de presse qu'il est en train de tenir, il est revenu aussi sur la manière qu'il avait pour agir contre cette douleur au pied, cette maladie dégénérative d'un os du pied. Forcément, plus vous avancez en âge, plus l'os est abîmé, plus la douleur est importante. Et il explique que là, avant chaque match, alors il n'a pas voulu donner le nombre, mais avant chaque match, il prenait des injections et son pied était totalement anesthésié, ce qui veut dire que son pied gauche, il ne le sentait pas sur le terrain, ce qui peut aussi avoir, évidemment, Cédric Pioline, des conséquences, une entorse ou un appui qui est mauvais, etc.
Oui, ou cacher le mal ou atténuer le mal, c'est bien dans le présent immédiat pour pouvoir supporter, atténuer la douleur et puis jouer. Maintenant, une fois qu'il va arrêter, comment son pied va réagir, quelle sera la douleur, c'est un petit peu, j'ai parlé un petit peu avec son équipe hein, tout à l'heure, c'est un petit peu le point d'interrogation hein, qu'ils ont à se dire dans 2-3 jours, qu'est-ce qui va se passer. Il a très envie évidemment de continuer sa saison, d'être à Wimbledon, mais il y a ce point d'interrogation sur son état physique, en fait.
Et ce mot qu'il emploie aussi depuis un certain temps, qu'il a encore employé ici tout à l'heure sur le cours en disant, s'il n'y a pas eu mon encadrement, sans doute que j'aurais déjà pris ma retraite, mon encadrement, ma famille. Il y a son médecin aussi hein, qui l'a accompagné là, tout le long du tournoi. Ça veut dire que pense. Enfin, hier, on était en train d'évoquer sur cette antenne, est-ce qu'il va peut-être annoncer sa retraite ou un gros break après Roland Garros. Là, il n'en est pas du tout question hein, ce soir.
Non, je ne pense pas. Mais enfin, il y a probablement un petit mur qui s'est cassé dans sa tête, où il y a l'année passée, il n'était pas du tout question de retraite, et puis c'est venu dans son esprit suite à tous ces problèmes physiques. La saison, d'une manière particulière pour Nadal et globale pour le circuit, est un peu folle hein, dans tous les scénarios qui sont en train de s'inscrire, mais c'est vrai que pour revenir à Rafa, il est c'est dans sa tête, c'est dans sa tête maintenant. Est-ce que il fera partie de ces joueurs, de la majorité des joueurs qui joueront quelque part le tournoi de trop, le match de trop, et en se disant bon bah c'est l'heure, ou est-ce qu'il voudra sortir par le haut en étant numéro mondial, en étant victorieux en Grand Chelem? C'est une question et c'est une décision qui lui appartient surtout.
Alors on le disait tout à l'heure avec Axel, 22 titres du Grand Chelem, il met Djokovic et Federer à 2 unités de son record.
Oui, c'est impressionnant. Enfin, là, je
la barre est
haute, comme on dit. Presque plus les mots, hein, parce que voilà, 22 titres du Grand Chelem. Federer, qui a 40 ans, lui qui, s'il revient, sera sans doute pour quelques tournois, mais pas, ça semblerait quand même impossible qu'il remporte un titre du Grand Chelem. Donc le seul qui peut le concurrencer aujourd'hui, c'est Djokovic, qui a un an de moins.
C'est Djoko, et c'est comme quoi tout peut aller très vite dans le monde du tennis, puisque l'année dernière, on était en train de se dire Djoko est ultra dominateur. Il était en finale de l'US Open pour faire le Grand Chelem Calendar, et puis là c'est finalement Rafa qui, entre l'Australie et ici à Roland-Garros, passe à 2 unités devant. Donc ça peut aller extrêmement extrêmement vite, d'autant plus que pour les deux grands chelems suivants, il y en a un. Alors bon, il y en a un qui donnera pas de points, c'est Wimbledon, on le sait. Maintenant, première
question. Oui, qui donnera pas de points parce que comme les Russes voilà, ne sont pas là.
Si on l'ATP a répliqué, mais la question première, c'est est-ce que on peut considérer que si jamais Djokovic ou même Nadal s'y joue gagnait à Wimbledon, est-ce que ça compterait dans ce décompte? Déjà, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'heure où on se parle, Djokovic ne pourrait pas jouer pas en Australie, mais aux États-Unis, puisqu'il faut avoir un vaccin pour rentrer sur le sol américain. Donc, et en Australie, il est banni de territoire pour 3 ans suite à l'épisode de début d'année. Donc, quelque part, enfin, en tout cas, en termes de points, le premier grand chelem qui compterait pour Novak Djokovic, ça serait Roland-Garros 2023. Donc c'est quand même assez fou. Ça laisse encore une forme de latitude à Rafa pour augmenter son avance.
Même si sur l'Open d'Australie, les autorités ont quand même dit qu'elle pourrait peut-être revoir à la baisse la sanction.
Enfin, en tout cas, avec les informations à l'instant T.
Oui, il y a quelques sponsors derrière, donc évidemment, on revoit peut-être son jugement. C'est peut-être comme ça que ça marche. Enfin, moi, je dis ça.
Oui, il y aura des pressions.
Oui, voilà.
Voilà, en tout cas.
Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Rafael Nadal? Enfin, son quotidien juste après Roland-Garros, qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
Alors, je peux vous dire que moi, juste ce soir, là, il fait conférence de presse. Demain, oui, à nouveau, demain, les photos sur la Tour Eiffel, etc. Après, il retourne chez lui au Baléares.
À Majorque, et puis je pense qu'il va se reposer. Il va y avoir un gros point, justement, médical. Il aura besoin, je pense, de décompresser et de laisser son corps retomber. Donc, allez, entre 2 et 5 jours, je pense que c'est à peu près le laps de temps.
Ça veut dire qu'il ne fait rien pendant 5 jours.
Il ne va pas faire grand-chose. Je pense qu'il va aller jouer au golf, parce qu'on sait tous qu'il est passionné de golf. Profiter un peu de sa famille, de ce magnifique parcours ici, et puis faire un point médical pour savoir où il en est. On sait maintenant que depuis quelques années, il y a une semaine supplémentaire entre Roland-Garros et Wimbledon. Donc disons que ça lui laisserait 2 semaines ensuite pour se préparer éventuellement pour Wimbledon, ce qui, je pense, est suffisant pour un joueur tel que lui, et de prendre sa décision pour savoir s'il va disputer.
Oui, c'est-à-dire à ce stade, on ne sait toujours pas s'il va à Wimbledon ou pas. Donc.
Pour l'instant, non. Je pense qu'il y a de l'envie, parce qu'on sait qu'il adore ce tournoi. Il a un grand respect pour... Il adore jouer sur gazon, mais on ne le sait pas encore.
Il l'a dit, hein, il aimerait y aller, voilà, il va voir ce que donne, si son corps le lui permet, mais en tout cas, il n'est plus question de faire une petite pause avant de continuer la saison, Pierre.
Bon, alors, il y a quand même, côté français, un double cocorico?
Oui, un double cocorico féminin, puisque Mladenovic et Garcia, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, ont remporté, après 2016, le titre en double dame. C'était ce matin face à la paire américaine Gauff-Pegula. Et je vous propose d'écouter un petit peu leur première réaction sur le court.
Vainqueur du double dame Roland-Garros. Roland-Garros 2022. Elles obtiennent leur deuxième titre ici à Roland-Garros. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, France.
J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Donc déjà, je suis très très contente de refaire équipe avec Kristina et merci pour ces deux semaines et de pouvoir aller rechercher le titre ensemble, deux Françaises. À Roland-Garros, il n'y a pas le meilleur titre pour nous.
Techniquement, on a oublié de remercier la FFT et Amélie pour nous avoir donné la wildcard parce que sinon, on ne gagnait pas Roland, je crois. On ne jouait plus trop en double, donc on n'avait plus trop de classement. Et donc, un grand merci.
Voilà, Mladenovic, on l'entend, Cédric Pioline, elle rappelle qu'ils ont eu une invitation de la part de la Fédération Française de Tennis pour venir jouer ici à Roland-Garros.
Oui, tout simplement, parce qu'au niveau du classement, elles ne pouvaient pas rentrer directement dans le tournoi. Donc, elles ont remercié Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, ainsi que la Fédération pour l'obtention de cette wildcard qui leur a permis, comme elle l'a dit très justement, de gagner. Mais c'est bien, ça rayonne, ça fait rayonner le tennis français. C'est super qu'il y ait une paire française qui ait gagné en double cette année.
D'ailleurs, à l'heure des bilans, Cédric, on a pour un tennis, pour le tennis français, c'est un Roland-Garros, on va dire, correct.
Je dirais pas ça. Je dirais que pour le, au niveau des simples, et c'est évidemment l'activité phare que tout le monde suit, que ça soit chez les femmes, chez les hommes. Si ma mémoire est bonne, pas de Français ou Françaises au troisième tour.
Si on en avait cinq là au troisième tour.
Le dernier c'était Hugo.
En huitième.
Ah oui, en huitième. Voilà. Aucun est allé en huitième.
Oui, en huitième.
Mais c'était mieux que l'année dernière. Ça s'est arrêté au deuxième tour.
Oui, mais bon, essayons de raisonner par le haut plutôt que par le bas. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on peut se satisfaire. On espère vraiment tous que ça va remonter, qu'on va avoir à nouveau des locomotives. En fait, c'est ça qu'il faut. Il en faut qu'un seul. Hein. Regardez Ruud, norvégien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et puis il est en finale. On espère que la dynamique va s'inverser, qu'à nouveau on aura des représentants, représentantes en deuxième semaine ici à Roland-Garros.
L'organisation du tournoi a aussi fait le bilan ce matin, Axel.
Oui, c'est classique, le dimanche matin, on fait le bilan, et notamment en termes de billetterie et sur le remplissage, qui était vraiment la volonté d'Amélie Mauresmo, de remplir avec, vous savez, ces fameux billets annexes sub, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous achetez des billets pour les courses annexes, et puis s'il y avait de la place, et vous allez écouter Amélie Mauresmo, vous pouviez, en principe, aller dans le cours central.
Par rapport au remplissage, moi, je trouve que c'était plutôt pas mal. C'était pas parfait, hein. On est d'accord là-dessus. Et pour être plus précise sur les annexes up, il faut qu'on le retravaille. Parce que clairement, ça n'a pas été le succès qu'on espérait. En fait, le succès qu'on espérait, c'était lié aussi au sens civique de chacun. Et l'incivilité qu'on a pu remarquer très rapidement, a empêché finalement le reste, la majorité des détenteurs d'annexes up de pouvoir continuer à bénéficier de ça. Donc on l'a fait. Ça a été mis en place quand même quasiment toute la première semaine, mais ça n'a pas été le succès qu'on attendait ou qu'on espérait. Mais voilà, c'est de bonnes leçons aussi, je pense, pour nous à tirer de cette expérience-là et puis essayer de trouver d'autres façons de faire.
Voilà, Amélie Mauresmo qui expliquait donc effectivement qu'on a vu, on a pu voir nous, sur les images de télévision, qu'il y avait quelques trous quand même encore dans le cours Philippe Châtrier.
Merci Axel May, merci beaucoup Cédric Pioli pour
Pierre.
Cette quinzaine en votre compagnie.
Un grand plaisir.
Toujours un grand plaisir.
Et qui a gagné le tournoi des légendes aujourd'hui, hein.
Bah oui, bah alors.
Non, on a perdu.
Ah, vous avez perdu.
On a perdu.
Vous êtes bien informé, Axel May.
Ça me fait plaisir.
Bien informé, Axel. Voilà, ça c'était la boulette du soir. Ça va Lionel?
Ça va très bien Pierre.
Sauvez-moi.
Je suis entre experts là. Cédric Pioli qui perd en finale. Axel May qui ne sait plus qui a gagné parmi les Français du tableau aujourd'hui. Néanmoins, on va tenter de faire une émission spéciale Roland-Garros dans quelques instants avec les mêmes, avec Axel, avec Cédric. Jean-François Pérez va nous rejoindre, mais surtout Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis, également Julien Bento, d'autres invités autour de Nadal. Le bilan de ce Roland-Garros et de cette belle quinzaine tout de même. On parlera de foot aussi puisqu'on est ensemble jusqu'à 23h, vous le savez.
A tout de suite et à tout de suite pour l'information avec Yoann Tri.